Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
T'étais là, ah non, non, non.
Je t'aime, je lui ai dit. J'ai dit, je t'aime Arnold en lui serrant la main. Ah, j'entends quelqu'un se moquer là à côté, d'ailleurs. Qui est habitué à faire des
ici,
tu vois.
Ici aussi, ça se moque.
Mais je t'emmerde. Tout simplement. Je me tâte même à réserver 4 fauteuils. Comme ça, je suis comme ça devant Avatar 2, tu vois. Calé.
Nassim, j'ai un petit jeu à te proposer.
Allez. Est-ce qu'il y a des trucs un peu. C'est des pièges ou pas?
Oui.
Si tu me demandes. Je rigole en plus.
Se lever à 4h du matin.
Surcoté.
La lumière rouge.
Sous-côté.
Un bon petit running de 5 km.
Sous-côté. Ah, surcoté. Enfoiré, ouais.
Bon. Là, on discute, les amis.
Je savais que t'allais faire une connerie comme ça, j'en étais sûr. Au début, je voulais le faire. Mais je me suis dit, bon, ça se trouve, il va te prendre la perche.
Bon, les amis, aujourd'hui, on a Nassim Saïli sur le podcast. Trop content d'avoir Nassim en tant que guest cette fois-ci. On avait fait un podcast tous les deux en mars, donc même pas un an, mais ouais. C'était dans ta salle, c'était trop bien. C'était un de mes meilleurs souvenirs de podcast.
Bah, surtout que toi, t'étais le premier de Là on discute. Hein.
Le deuxième,
t'étais
non
le deuxième de Là on discute, effectivement. T'étais le deuxième, donc attends.
Je suis passé après une coach en séduction et avant Baptiste Marché. Et ça, je trouve que ça montre le spectre des invités qu'on peut avoir sur Là on discute.
La diversité, carrément.
Ouais. C'est trop bien que tu lances des podcasts cette année. Bah, je crois que je les ai quasiment tous écoutés. J'ai bien aimé vos discussions et j'ai plein de questions à te poser là-dessus.
Bah ouais, fonce, je suis à ta disposition. Hein.
On va parler un petit peu de ça, on va parler un petit peu de musculation aussi, parce que c'est comme ça que je t'ai découvert il y a 6 ans maintenant, je crois, en tapant des vidéos développé couché sur... Je me rappelle une séance full body que tu avais faite où tu faisais du front squat au début.
Ouais.
Et c'était une séance que je faisais le plus quand je suis arrivé à la salle. Ah ouais. Parce que...
Ah ouais, c'est vieux ça.
Tu te rappelles?
Ah ouais. Déjà,
t'en fais plus du front squat, ouais, c'est
ah
ça?
Non, j'en fais plus. C'est pour ça que ça me confirme que c'était un peu vieux.
Mais je me rappelle qu'il y avait cette séance-là dans ta deuxième salle, celle que t'avais où tu faisais des vidéos à l'époque.
Ouais, VO2 Max.
Ouais, c'est ça. Et c'est trop cool de t'avoir sur le podcast aujourd'hui. Et j'avais plein de questions à te poser, mais déjà, comment est-ce que ça va en ce moment?
Ça va bien.
T'as fait une séance de sport ce matin?
Je voulais faire une Orelsan, tu vois. Bah moi, ça va.
Tu veux que je fasse une interprétation d'Orelsan?
Non, c'est pas grave.
De quand on arrive à le faire souvent? C'est dans les gènes. Tu voulais faire... ça va bien.
Ah ouais, ça va bien. Mais j'arriverai pas bien à l'imiter. Mais oui, ça va, je sors d'une séance de fractionné. Je suis un peu KO.
Incroyable.
Ouais, mais sinon, non, le reste, ça va bien. Beaucoup de boulot ces temps-ci. Beaucoup d'entraînement sportif aussi. Mais moi, je fonctionne comme ça. J'aime bien quand il y a beaucoup de choses à faire. Et qu'en plus, les choses sont bien cadrées, bien organisées. Alors là, je suis le plus heureux. Donc là, tu vois, ces temps-ci, je fais ma course à pied le matin. Je bosse tout le reste de la journée. Je fais ma musculation en fin d'après-midi, même début de soirée. Tout est bien cadré, donc c'est cool. C'est dans ce genre de cas de figure que moi, je m'épanouis le plus.
Ok, j'ai vu que tu t'es lancé le défi de... Bon, il y a eu le marathon qui était là il y a quelques mois maintenant. Mais j'ai vu que tu cours beaucoup le 5 km.
Oui.
C'est quoi tes objectifs avec le 5 km?
Alors en fait, c'est fini le 5 km.
Ah, c'est fini?
Non, c'est fini. Ouais.
T'as battu ton record ou juste
non, c'est pas ton truc? Non,
non,
je t'explique en fait le truc, c'est que je prépare mon deuxième marathon. Marathon de Paris, le 3 avril, je crois, quelque chose comme ça. Et j'ai pris un coach qui m'a dit, on va faire une prépa de 6 mois. La prépa de 6 mois, elle a commencé le 3 octobre. Avant le 3 octobre, je lui ai dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je peux aller courir quand même? Il m'a dit, si tu veux, mais ne fais que des 5 km, juste pour te familiariser un peu avec l'effort, etc. Fais ça 3 fois par semaine quand t'as le temps, te casse pas trop la tête. Donc depuis le mois de juillet 2022 jusqu'en octobre, j'ai fait que des 5 km à raison de 2-3 fois par semaine, et c'était juste pour me mettre à la course en fait, parce qu'avant ça j'avais jamais couru, à part le premier marathon, j'avais jamais couru et j'avais jamais pris l'habitude de ça. Donc maintenant les 5 km sont finis, j'ai commencé la vraie prépa le début octobre, et là maintenant c'est un mix entre des footings de 45 minutes à 1 heure, du fractionné, etc. Un truc bien plus cadré.
Ok, mais corrige-moi si je me trompe, mais au début, t'aimais pas les 5 km Et j'ai remarqué qu'au fur et à mesure des stories, c'est comme si c'était un moment cool pour toi après dans la journée.
Alors, j'ai commencé mon premier 5 km en juillet. J'étais au bout du rouleau et j'avais fait 26 minutes. Mais vraiment, j'ai cru que ma vie... ma vie, c'était un enfer. Et je me disais, mais comment je vais pouvoir courir un marathon à ce rythme-là ou même plus rapide? Et puis, au fil du temps, j'ai commencé à prendre plaisir. En plus, je cours sur les quais de Saône à Lyon. Donc, c'est un environnement qui est assez sympa, tu vois. Il n'y a pas de voiture, enfin, il n'y a pas trop de voitures qui passent. Je connaissais bien le parcours. Je me suis bien amélioré sur le truc. Des fois, je voyais des stories, je me disais, putain, il court vite, ce con. Il court vite, je vais rattraper Greg.
Après, on n'a pas la même morphologie, donc
je
suis plus fait pour être rapide et discret. Moi, je suis rapide et discret.
Je me disais, ah ouais, il a quand même des bons temps. Et puis, bref, tout ça pour dire que, effectivement, je prenais de plus en plus de plaisir. Alors, c'est pas encore, on n'est pas encore au niveau de plaisir de la muscu. Parce que je ne sais pas si on y arrivera un jour, d'ailleurs. Hein. Mais j'y vais pas à reculons. Et là, par exemple, ma séance de fractionner ce matin, le début était dur, mais j'étais quand même bien content de l'avoir terminé.
Mais est-ce que c'est pas le même plaisir, vraiment? Est-ce que tu trouves pas que c'est une sensation différente de 100%. On se sent pas pareil, je trouve, après une session de running qu'après une session de musculation?
Ouais, 100%. Parce que, en plus, la musculation, moi, j'ai une approche un peu pas particulière, mais je suis bien conscient que c'est pas un sport de perf. Je suis bien conscient que pour progresser, il faut accumuler des répétitions, des séries, etc. Donc, il n'y a pas cette logique de... Enfin, il y a un peu cette logique de je vais me dépasser, mais pas du tout comme la course à pied. La course à pied, vraiment, sur des 5 km où il fallait que je tienne le même rythme, pour moi, c'était la vraie définition du dépassement. Alors que la muscu, tu vois, si je fais 6 reps au lieu de 8 reps, c'est pas un drame. Et même si je me dépasse pour faire les 8 reps, c'est pas ça qui va me faire prendre beaucoup plus de muscles. Donc, il y a un rapport qui est un peu différent et effectivement un plaisir différent.
Ok, donc maintenant, moins de 5 km ou ouais. Même plus du tout?
Plus du tout.
Et ça va être des sessions plus longues pour
préparer le marathon. Pour l'instant, toutes les sessions, elles ont duré au moins 45 minutes. Là, ce matin, c'était fractionné, mais il y avait avant 20 minutes et après 20 minutes à allure footing. Donc, ça m'a fait une séance de 55 minutes. La semaine dernière, j'ai couru 35 km en tout. Donc, ça commence à faire un peu plus de kilomètres.
Ok.
Mais c'est cool. J'ai hâte de voir jusqu'où je peux aller.
Parce que le but, c'est de faire un marathon sans être cassé 3 semaines après, comme c'était le cas la dernière fois.
Ouais. Mais j'étais cassé pendant 3 mois.
Mois?
Ah mais oui.
Mais tu faisais comme des vidéos.
Je suis même pas sûr. Hein.
Ah ouais,
que je vérifie ça.
Ça t'a vraiment mis un coup ce marathon sans préparation, pour préciser?
Ouais, ça m'a mis un coup. Je me suis pas entraîné en muscu du 3 octobre, donc la date du marathon, jusqu'au 1er janvier.
Ah donc, ok, je pensais pas que c'était aussi long.
Presque 3 mois. Okay. Oh, ouais, J'étais dégoûté, je sais pas pourquoi, je sais pas si c'est vraiment le marathon qui a fait ça ou l'accumulation, tu vois, peut-être de travail ou de tout, hein, qui a fait que j'en ai marre. Mais là, effectivement, le but, c'est de pas me retrouver dans ce cas de figure-là. Mais je pense qu'avec 6 mois d'entraînement, on prend moins de risques. Et puis, il y a un petit objectif de perf quand même, parce que bon, j'ai envie de performer.
T'avais fait combien au premier marathon?
4h09.
Et là, le but, ce serait de passer en dessous des 4h?
Ah non.
Ah non?
Ah non. 3h30.
Ah oui, non, mais donc passer en dessous des 4h.
Ah, bah oui.
Ah,
ah oui,
non, 4h50, moi je pensais.
Non, large.
Ok.
Oui, je veux faire 3h30. Si je fais 3h45, c'est pas un drame parce que ma vie en dépend pas. Mais tu vois, la préparation est faite pour que je puisse faire le marathon en 3h30. C'est le coach qui a fait les entraînements en conséquence. Donc, ouais, il y a quand même un objectif de perf, mais il est secondaire. Premier objectif, c'est quand même de le finir dans de bonnes conditions. M'amuser, faire une belle vidéo, tu vois, rencontrer des gens qui font de la course à pied, parce que j'en croise de plus en plus, à ma grande surprise, qui suivent aussi le contenu muscu. Donc ça, c'est génial, j'en ai croisé 2 ce matin, c'est trop bien.
Et les gens qui courent, petite anecdote, c'est les gens les plus gentils au monde. C'est les gens qui sont les plus agréables à chaque fois.
Tu trouves?
Ah ouais, si tu trouves pas.
Non,
t'as
non.
Des mauvaises interactions.
Ah non, je les trouve super agréables. Mais bon, les gens de la muscu aussi, je les trouve agréables.
Ah ouais. Ouais, tu peux te confier, mais je sais pas, les gens que je croise sur le chemin à chaque fois, le dimanche matin surtout, c'est les gens les plus adorables que j'ai jamais rencontrés de ma vie.
Bah, pour l'instant, j'ai eu des interactions qui étaient aussi agréables pour la course à pied que la muscu. Donc, je pourrais pas dire qu'ils sont plus agréables d'un côté ou de l'autre. Peut-être qu'il y a cette sympathie aussi pour moi, parce que je suis débutant en course à pied. Et la plupart des gens que je croise, ils sont plus expérimentés forcément. Hein. Donc, tu vois, peut-être que ça leur fait plaisir de se dire « Ok, il a fait 15 ans, 16 ans de musculation. » Là, c'est un petit débutant, mais on va l'encourager. Donc, on va essayer de le voir avec un bon mindset. Et c'est ce qui s'est passé ce matin. Donc, c'était trop cool.
Ok. Et ça te fait plaisir de retomber dans la case débutant aussi d'un sport?
Ouais, ça ne me dérange pas. Au contraire, c'est même hyper stimulant parce que la progression, tu la vois. La muscu, maintenant, la progression, je ne la vois plus. Et même si je rajoute une ou deux reps ou 5 kilos sur ma barre, je m'en fous un peu parce que je sais que ce n'est pas ça qui va me faire prendre du muscle. Donc, ouais, c'est quand même assez agréable.
Ok. Donc bah, on va suivre ça, cette évolution. Ce marathon, bah, tu vas croiser sûrement plein de personnes. Et...
Bah, surtout le marathon de Paris. Ouais. Là, ça va être blindé et ça va être un bel événement. Je pense que ça va être cool.
Ok, et j'espère que cette fois-ci, il n'y aura pas de crash après où tu pourras continuer de faire des vidéos et continuer.
Non, je
ne
vais pas faire le con.
Là ça est fait méthodiquement avec un coach.
Absolument, je vais prendre soin de moi. Et même pour le reste, hein, maintenant, j'ai plus de gens qui bossent avec moi pour les vidéos YouTube. Donc, tu vois, je peux, après le marathon, ne pas mettre de tournage pendant 3 semaines, voire même 4 semaines, sans que ça pénalise la publication du contenu.
Ok, trop bien. De toute façon, pour l'instant, ça ne se voit pas. Tu es même hyper régulier, je trouve, sur YouTube et sur les podcasts. J'ai vu que tu en avais retourné. Ouais. Tu fais ça un petit peu par session, parce que ce n'est pas facile de booker des invités tout le temps. Donc,
les podcasts, c'est un peu plus compliqué, parce qu'il y a toute la logistique, on en parlait juste avant, qui va avec. Donc, c'est un peu plus compliqué, mais bon, on s'y fait petit à petit. Pour l'instant, les podcasts, on n'a pas de planning de publication. Parce qu'encore une fois, ça dépend du planning des invités, du montage, etc. On essaye d'en accumuler le plus possible. Et puis, plus la chaîne sera populaire, en fait, et plus on pourra mettre du budget dedans et éventuellement avoir un vrai planning de publication. Comme n'importe quelle entreprise, en fait. Hein. Mmh. Pour l'instant, bah, ça ne rapporte pas de sous. Donc, on fait un peu comme on peut. Et puis, bah, plus le temps passera, espérons plus ça se développera et plus on pourra faire quelque chose de cadré, comme la chaîne YouTube principale. Mmh.
Bah, c'est la question que je voulais te poser, c'est sur ce podcast que tu as lancé, là on discute, qui n'a même pas encore un an, qui a plutôt 6 mois, 8 mois maintenant,
c'est ça.
Que tu as lancé, tu as eu pas mal d'invités maintenant. Qu'est-ce que tu en penses de ce podcast? Est-ce que tu es content des retours? Et est-ce qu'il y a eu des choses auxquelles tu ne pensais pas lorsque tu as lancé ce podcast, où tu t'es fait la remarque que c'était peut-être plus compliqué que prévu ou que finalement ça s'est passé comme tu imaginais?
Super content des retours, super content des vidéos en elles-mêmes. Et même des discussions que j'ai pu avoir avec tous les interlocuteurs. Moi, le format podcast, c'est un format qui m'a toujours plu, mais surtout les podcasts vidéo. Tu vois, je ne voulais pas juste faire un podcast audio, comme beaucoup le font, et je peux comprendre que ça demande moins de logistique, donc du coup, c'est un peu plus facile. Mais personnellement, par exemple, sur YouTube, ça m'arrive souvent de mettre un podcast et de regarder les gens parler, tu vois. Alors, des fois, je fais d'autres choses en même temps, mais pas tant que ça. Hein. Quand c'est des podcasts un peu scientifiques où il y a besoin de se concentrer, je regarde le truc. Et je trouve ça hyper cool, en fait. Je trouve ça hyper cool, ce format-là. Donc, je me suis dit, bah, pourquoi pas? Pourquoi pas faire la même chose? Parce que tout ce que je regarde, bah, c'est des podcasts américains. Il y a des podcasts français qui sont très intéressants et qui sont bien filmés, etc. Je les regarde un petit peu moins. Mais ce format-là, vidéo de podcast, il m'intéressait beaucoup. J'avais la possibilité de le faire parce que j'ai une équipe qui s'est un peu agrandie. Donc j'ai foncé, en fait, sans trop me poser la question de me dire est-ce que ça a marché, est-ce que ça va faire des sous, est-ce que, enfin, je ne sais pas, X ou Y raison. Pour l'instant, j'en suis content.
Ok, tu t'étais pas fixé d'objectif d'abonner sur la chaîne au bout d'un an, etc.
Non, il y a un objectif par contre, c'est publier 20 podcasts.
Et là, tu as combien?
Là, on en a publié 9. Et avec ceux qu'on a tournés cette semaine, on va arriver à 13, je crois, un truc comme ça.
Ok. Sur le podcast, tu as eu une variété d'invités qui étaient folles.
Oui.
Tu as commencé par une coach en séduction.
Oui.
Après, un petit youtubeur qui se la pétait un petit peu.
Qui se la pète beaucoup, vous, un peu. Tu racontes.
Il y a eu des personnes dans le sport, il y a eu des personnes dans le développement personnel, tu as eu des personnes dans la séduction aussi avec Alexandre Cormon. Oui. Et tu as eu des invités plus controversés, dont en fait l'épisode avec le plus de vues de ton podcast avec Baptiste Marché. Et moi, je trouvais ça bien que tu invites des gens qui soient controversés et qui vont faire débat à chaque apparition.
Ouais.
Et est-ce que tu penses que c'est important dans un podcast, dans un format long, à une époque où il y a de plus en plus de formats courts, où il y a de plus en plus de manque de contexte, est-ce que tu penses que c'est important de faire des formats longs comme le podcast que tu as fait justement et d'inviter des invités un peu controversés de chaque bord pour se rapprocher un peu plus de la vérité?
100%. Et d'ailleurs, c'est un sujet que j'ai abordé hier dans l'un des podcasts, dans l'une des discussions que j'ai eues avec un autre interlocuteur. Effectivement, pour moi, le contenu court et décontextualisé, c'est un peu un virus, quoi. C'est hyper dangereux. C'est hyper dangereux. Et malheureusement, on est obligé de jouer le jeu, parce que même moi, mes podcasts et les tiens aussi, hein, on en fait des clips vidéo d'une minute. Donc, tu vois, c'est un peu bizarre. Alors effectivement, la volonté d'inviter des personnes de tous bords, enfin, qui ont toutes les idées ou toutes les réflexions possibles, c'est plutôt un intérêt personnel. Hein. C'est même pas une volonté de me dire « Ah bah le podcast, ça va faire des vues parce que lui, il a telles idées, il est apparu ici et là. » C'était vraiment une volonté perso de me dire « Ok, j'aime bien me faire une idée perso, tu vois, en discutant avec quelqu'un. » Et la meilleure façon de le faire, bah, c'est d'organiser un podcast sur une heure ou une heure et demie et voir ce qu'il en est. Et tous les podcasts se sont bien passés. Quel que soit l'invité. Hein.
Ouais.
Quel que soit l'invité.
Oui, c'est ça. Bah, en fait, dès que c'est une... C'est souvent lorsqu'on voit un extrait d'une personne qu'on a tendance à se faire une idée sur une personne, mais je trouve que j'ai rarement eu, sur un format long d'une heure et demie, deux heures, eu vraiment un sentiment de détester la personne ensuite.
Ouais.
Dès que tu comprends un peu ce qui son histoire et dès que tu arrives à comprendre les idées, je trouve, et que ça rajoute du contexte surtout, je trouve qu'il n'y a pas grand invité que tu peux vraiment détester.
Absolument. Après, il y a des idées de certaines personnes que je ne comprends pas et peut-être que je ne comprendrai jamais. Mais ça, c'est pas ça qui va m'amener à la détester, loin de là. Et c'est pas ça qui va m'amener à éviter de parler avec cette personne-là. Il y a des choses... ma famille, elle dit des choses des fois dont je suis pas d'accord. Mon frère dit des choses avec lesquelles je suis pas d'accord. Ma sœur, c'est pareil. Ma mère, mon père, mon meilleur ami, pourtant je les déteste pas et même je les aime de tout mon cœur. Donc je suis pas sûr que l'opposition de certaines idées doit justifier la détestation. Alors après, effectivement, il y a des idées qui peuvent être extrêmes ou qui peuvent être complètement insoutenables à entendre. Ça, j'en conviens bien. Mais bah, toutes les personnes que j'ai eues en face de moi, pour l'instant, tu vois, le discours s'est plutôt bien passé.
Ouais, c'est resté là, on se discute.
C'est resté là, on
discute. C'est pas là, on se bagarre.
Exactement, c'est pas là, on se bagarre. Mais ouais, j'aimerais bien souligner ça, le fait que, on n'est pas obligé de partager les mêmes idées que les autres. Mais ça ne nous empêche pas de discuter.
Est-ce que tu as l'impression que les gens sont un peu plus sensibles et peut-être dès qu'ils ont une idée qui ne leur convient pas, ils prennent la mouche, quoi?
Ouais.
La question un peu... Je me prends un peu pour un journaliste, là, mais...
Ouais, mais grave, calme-toi.
Hein. Dis-moi, Nassim.
Non, mais c'est tout à fait ça. Il y a beaucoup de réactions qui sont... comment dire? Qui sont moins rationnelles et plus basées sur les sensations. Donc on déteste quelqu'un, tu vois, c'est pas rationnel en fait. C'est pas rationnel parce que c'est une sensation qui est instantanée et on manque du recul nécessaire pour se dire « Attends, je vais analyser le truc, il a dit ça peut-être à cause de ça, est-ce que je suis d'accord ou pas d'accord avec lui ? Est-ce que ça vaut le coup que je m'énerve ou que je l'insulte ou je le déteste ?» Tu vois, je pense qu'il y a toujours un peu de recul à prendre. Et moi, c'est mon caractère d'être plutôt calme, posé, de tourner ma langue cette fois dans ma bouche. Je choisis en général assez bien mes mots dans les discussions que j'ai personnelles. Hein. Je parle pas sur les réseaux sociaux ou sur YouTube ou quoi que ce soit. C'est-à-dire que je préfère ne pas parler plutôt que dire tout ce qui me passe par la tête. Donc je préfère analyser avant. Ensuite, je m'exprime. Et je pense que c'est lié à mon caractère. Et du coup, c'est ce qui m'a encouragé à rencontrer ces personnes-là. Parce que je savais bien que j'allais pas avoir de réaction, tu vois, trop instantanée ou trop émotive.
Ok. Et je trouve que c'est bien aussi pour ça de faire des podcasts plus scientifiques, où il n'y a pas forcément... parce que c'est vrai que ça peut être fatigant de débattre toujours d'idées ou de... Il y a des sujets qui prennent plus la tête que d'autres, ouais. J'ai l'impression. Et il y en a un qui, et je pense que tu seras d'accord, qui prend jamais la tête, c'est l'amélioration de soi, de son mode de vie. C'est un peu style Andrew Berman, que tu cites récemment dans tes stories, j'ai remarqué.
Qu'est-ce que je l'aime, celui-là.
Ouais. Parce que lui, tu sens qu'il n'y a pas de prise de tête. C'est...
Ouais.
Et lui, ça l'arrange aussi parce qu'il arrive en position de neuroscientifique et puis il dit, bon, bah voilà, j'ai des data, je vais vous partager ce que j'ai appris et puis il n'y a pas vraiment de lieu à contestation.
Ah,
ou peut-être avec ses pairs, qui sont neuroscientifiques aussi, parce que c'est aussi des milieux où il y a beaucoup de regard des autres, etc.
Carrément.
Donc Andrew Huberman, c'est quelqu'un que tu as cité pas mal de fois, neuroscientifique, qui parle de rythme circadien, qui parle d'optimiser son mode de vie, plein de choses qui t'intéressent depuis des années.
À fond.
Est-ce
du coup, pardon de te couper, c'est le genre de podcast que je regarde sans distraction. Tu vois, je me concentre bien et j'essaye d'accumuler le plus de connaissances possibles, enfin le plus de concepts possibles. Il y en a certains que je regarde même deux fois, parce que c'est de l'or, hein, ces podcasts, ils sont absolument géniaux.
Ouais, sur les circuits de dopamine, sur le rythme circadien.
Absolument.
Il y a quelque chose qu'il dit souvent, c'est de prendre la lumière du jour les premières heures après le réveil.
Ouais.
Est-ce qu'il y a quelque chose que toi tu fais, que tu as retenu de son podcast par exemple, pour optimiser ton rythme circadien et pour te sentir mieux dans ta vie, comme par exemple prendre la lumière du jour après le réveil?
Et ne pas se réveiller avec un réveil aussi.
Oui, le TikTok qui a fait...
le TikTok où je me suis fait défoncer. Mais ça c'est important aussi. Hein. Il le dit dans l'un de ses podcasts. Après, c'est quelque chose que beaucoup de personnes conseillent depuis de nombreuses années. Et mes habitudes au quotidien, effectivement, c'est me réveiller sans réveil. Et puis, prendre la lumière du jour quelques minutes, voire quelques heures, ça dépend de mon emploi du temps, après que le soleil soit levé. Et moi, je vais au travail à pied. Tu vois, je ne prends pas ma voiture. Donc, je suis confronté à la lumière du soleil assez souvent, en fin de compte.
Okay.
Et quand ce n'est pas le cas, quand le temps n'est pas au rendez-vous, je me prends une petite lumière rouge et je m'expose pendant quelques minutes.
Ah, il y a ça aussi. Tu fais toujours la lumière rouge ?
Quand il fait pas beau, ouais.
Ok.
Quand il fait pas beau, oui. Quand il fait beau, j'en ai pas besoin parce que je suis largement assez exposé. Et comme je t'ai dit, je vais au travail à pied, je rentre à pied. Donc vraiment, je passe quand même pas mal de temps dehors. Contrairement à des personnes qui pourraient prendre le métro alors que le soleil n'est pas encore levé, qui pourraient aller dans des bureaux avec de l'éclairage artificiel et qui ne sont pas vraiment confrontés à la lumière du soleil, moi, ce n'est pas le cas. Après, quand il fait gris, effectivement, peut-être que je peux prendre 10 minutes pour m'exposer à la lumière rouge avant de sortir de chez moi.
C'est quoi l'intérêt principal de la lumière rouge par rapport à ce que disent les recherches ?
Bah, en fait, tu as un spectre lumineux qui est un peu similaire à celui des rayons du soleil. Donc, c'est de la lumière rouge et infrarouge, au contraire de la lumière ultraviolette, par exemple, hein. Beaucoup de gens font un peu l'amalgame et me disent « Mais attends, c'est pas bon pour ta peau. » Mais non, c'est pas des UV. Donc c'est vraiment rouge et infrarouge. Et c'est censé reproduire les bienfaits qu'ont ces rayons-là du soleil sur toi, donc sur ton humeur, sur le rythme circadien justement. Il y en a certains qui parlent aussi du bon fonctionnement de la thyroïde, de la bonne santé de la peau. Ça peut éviter de développer de l'eczéma ou du psoriasis. Ça, je crois que c'est pas encore totalement prouvé parce que ça manque de recherche, mais en tout cas, c'est des axes intéressants.
Ok, donc quelque chose que tu fais plutôt en hiver.
Oui.
Et les périodes où il y a moins de soleil.
Exactement.
Okay. Il y a aussi, est-ce que tu optimises un petit peu le soir et le fait de diminuer la lumière de la pièce dans laquelle tu vis au fur et à mesure de la journée ?
100%.
Ok.
100%.
Tu vis pas encore à la bougie, mais.
Non, faut pas exagérer parce que après, je pense qu'il faut toujours trouver un équilibre. Il faut trouver un équilibre, mais clairement, déjà, j'en suis conscient. Et le fait d'en être conscient, ça te permet de prendre quand même les dispositions nécessaires. Donc, je suis attentif à ça. Je suis loin d'être parfait, mais vraiment loin d'être parfait. Ça m'arrive encore de m'allonger dans mon lit avant de dormir et d'avoir le téléphone devant les yeux, tu vois. Mais j'en suis conscient. Et puis, je le fais pas souvent. Je le fais même assez rarement. Donc, tu vois, ça me permet d'être assez carré sur ça. J'ai écouté un autre podcast. Je sais plus le nom de la personne qui a dit ça. Mais elle disait une chose assez intéressante. Elle disait que quand tu es dans ta chambre et que tu es allongé, tu n'as pas le droit de prendre ton téléphone. Tu peux prendre ton téléphone dans ta chambre, mais il faut que tu sois debout.
Ah, ok.
Et du coup, ça te décourage vachement à te coucher avec ton téléphone. Tu restes debout, tu regardes ce qu'il y a à regarder, mais une fois que tu es allongé, il n'y a plus de téléphone dans ton lit, que ce soit avant de dormir ou en se réveillant. Parce qu'en se réveillant, c'est aussi pas terrible de directement regarder son téléphone et de commencer à scroller sur TikTok.
C'était aussi Cyrus North que tu as eu sur le podcast, qui lui s'interdisait de rentrer dans sa chambre avec son téléphone.
Ouais.
Quelque chose qu'on peut pas tous faire, parce que moi quand j'étais étudiant par exemple, ma chambre c'était mon salon. Mais l'intérêt c'est de... Donc toi ce que tu disais c'était une technique qui limitait la tentation.
Ouais.
Et ce qui est pratique, si on arrive à le faire, c'est de supprimer carrément la tentation.
Carrément.
En ayant des... Parce que moi je me vois bien, alors cette règle d'être debout, d'utiliser le téléphone, s'il est sur la commode et que je suis assis et que il est dans ma zone, je peux l'attraper avec un bras, bon, je sais pas comment ça va finir.
Ouais, après chacun fonctionne comme ouais. Il l'entend, tu vois, ça dépend des sensibilités, il n'y a pas d'obligation. Moi mon téléphone il est quand même à côté de moi pendant la nuit, mais c'est surtout le matin, comme je me réveille sans réveil, j'ouvre les yeux, je regarde l'heure. Si tout va bien, si on est dans les temps, bah, je me réveille tranquille. Si j'ai un tout petit peu de retard, ce qui arrive assez rarement en fin de compte, hein, bah, je me dis, bah, il faut te bouger un petit peu les fesses. Mais sinon, c'est juste pour ça.
Tu le mets en mode avion le téléphone quand tu l'as à côté ?
Ouais.
C'est pour les EMF ?
Alors, c'est pour les EMF, mais alors, je pense qu'il y a quand même des EMF même en mode avion.
Bah, ça, ouais, ça me paraît impossible que juste en appuyant sur un bouton, ça coupe.
Je pense que si on voudrait ce...
EMF, c'est électromagnétique field.
Ouais,
donc les ondes électromagnétiques.
Exactement. Mais ça, c'est tous les appareils électriques, théoriquement.
Ouais.
Donc si tu as une box Wi-Fi pas loin de toi, si tu as une télé qui est branchée, mais même si elle est éteinte, il y a quand même un champ électromagnétique. Donc c'est ça la traduction. Donc théoriquement, il faudrait se débarrasser de tout ça. Mais c'est en théorie, c'est impossible en vrai. Et moi, j'entendais ça déjà de Charles Poliquin à l'époque, qui est coach en... Je ne sais pas si tu es familier avec ce gars.
Non, son nom me dit quelque chose par contre.
C'est un coach en musculation canadien qui est décédé maintenant. Mais c'était un peu la référence dans les années 2000 du coaching. Et en l'occurrence, moi, c'est lui, avec lui que j'ai appris à gérer les tempos d'exécution de ma séance de musculation, à comprendre les exercices à forte tension d'étirement et de contraction, etc. Et il avait aussi une logique un peu développement perso. Et il parlait de tout ça, du champ électromagnétique et du fait d'essayer de s'en débarrasser au maximum. Tout ça pour dire que, même en mode avion, je pense qu'il y a toujours des EMF. Je m'en soucie pas trop. Et le seul appareil électrique dans ma chambre, c'est mon téléphone et ma lampe de chevet.
Ok.
Sinon, j'ai pas de télé, j'ai pas de box, j'ai rien de tout ça.
Ouais. Et EMF, je sais plus exactement. Bon, je sais que c'est quelque chose à éviter, mais je sais plus. C'est sûrement associé à certains cancers, certains migraines aussi.
Mais je pense qu'on sait même pas si c'est associé à certains cancers.
Ouais.
Tu vois, c'est encore un petit peu flou.
Mais on s'en doute un petit peu que
c'est pas forcément très bon. De la même façon que mettre son téléphone à côté de ses testicules, tu vois.
Ça me fait flipper ça. j'ai rencontré des gars qui optimisaient ça.
Ouais.
Et c'est toujours le gars qui avait des sacoches.
Ouais.
Et je lui dis mais tu mets des sacoches parce que t'aimes pas les sacs à dos. Il me disait non, vraiment, je mets les sacoches parce que j'ai pas envie d'avoir mon téléphone dans ma poche. J'ai envie d'être papa, tu vois.
Est-ce que c'est une sacoche en plomb, là, la question. Je sais pas si...
Ah, mais il y a ça aussi.
Mais oui, je sais pas.
Et il y a aussi ceux qui changent leur... qui veulent pas les casseroles à... qui ont des casseroles spéciales pour... là, c'est les perturbateurs endocriniens. C'est un autre sujet, mais...
C'est un autre sujet. Mais je sais pas si tu connais Liver King.
Ah, Liver King, oui.
Liver King, tu vois qui c'est. Oui. Bah, lui, avant de dormir, il met son téléphone en mode avion et dans un pochon avec un liner en plomb, en fait, pour éviter justement...
Pourquoi pas le mettre dans la pièce d'à côté directement?
Mais parce que c'est Liver King. Pourquoi bouffer des têtes de cabillaud ou je sais pas quoi? Bah, c'est Liver King.
Des testicules crus,
ils absolument, mangent. Absolument.
Ok.
Donc, il y a tout un délire autour de ça. Je pense qu'il faut... Il y a des choses à prendre, des choses à laisser de côté. Mais c'est clair que déjà, faire le premier step de se lever sans réveil, je persiste et je signe, hein, même si tout le monde m'a insulté, je persiste, je signe, c'est quand même la meilleure chose à faire. Et puis, éviter d'avoir son téléphone trop souvent avec soi, que ce soit avant de se coucher ou en se réveillant le matin.
Mais je me souviens d'un appartement étudiant que j'avais eu, le deuxième, et la chambre était complètement... Il y avait une chambre seule, qui était toute petite, qui faisait, je sais pas combien de mètres carrés, mais qui était petite. Il y avait une lampe, et c'est tout. Mmh. C'était un couloir, en fait, avec juste un lit.
Ouais.
Et je me rappelle que j'ai jamais aussi bien dormi dans cette chambre que dans n'importe quel lit, même un lit plus grand, plus confortable. Et bon, c'est... effet placebo ou en même temps il y a quand même des conditions qui faisaient que c'était un bon sommeil, mais j'ai jamais aussi bien dormi dans cette chambre que dans une autre. Et c'est vrai que j'ai l'impression que dès qu'il y a des appareils un peu électriques ou même mes parents ils avaient un routeur par exemple dans leur chambre,
ouais.
Donc j'essaie d'optimiser le mode de vie de mes parents aussi, mais voilà, c'est pas facile.
Non, c'est pas facile.
Mais déjà je pense pas dormir avec son téléphone, pas en mode avion à côté de soi, donc mettre son téléphone loin, ouais, voilà des petits hacks pour optimiser sa santé.
Bah surtout, chacun y va à son rythme. Hein.
Ouais.
Chacun y va à son rythme, mais même ne serait-ce qu'une toute petite amélioration du sommeil, par exemple, en mangeant un tout petit peu plus tôt le soir ou en évitant certains macronutriments, déjà, ça peut faire la différence. Ou même des exercices de respiration qui durent 30 secondes avant de se coucher pour favoriser l'endormissement. Je sais que, dit comme ça, j'ai l'air d'un rabat-joie. Qui va faire des exos de respiration avant de dormir? Mais quand ça devient une habitude et quand ça a une influence positive sur ton sommeil et du coup sur tout le reste de ta vie, ça serait quand même dommage de s'en priver. 30 secondes avant de se coucher.
Tu fais un peu de méditation aussi?
Alors, je fais un peu de méditation. C'est pas le truc que je préfère. Parce que, en fait, c'est assez particulier la méditation parce que j'ai parlé avec beaucoup de gens qui faisaient de la méditation. Beaucoup de gens qui aimaient ça. D'autres qui le faisaient un peu par contrainte. Et quand je demandais « Mais à quoi ça vous sert ?», j'arrivais pas à avoir une réponse assez précise. Il y en a certains qui assument le fait que la méditation ne sert à rien, c'est pour ça que ça sert à quelque chose. Et d'autres, au contraire, qui mettent en avant le fait que la méditation, c'est quelque chose qui te permet de te retrouver avec toi-même, de laisser tes pensées vagabonder. C'est assez flou. J'ai l'impression qu'en fait, la méditation, il n'y a pas de définition propre. Et que quand je fais de la muscu, je peux très bien être en méditation. Quand je fais des exercices de respiration, ça pourrait être de la méditation. Donc, c'est difficile à définir.
Tu n'as pas rencontré des gens qui faisaient de la méditation ? Qui disait qu'il partait parfois dans des états de transe ou qu'il partait hyper loin?
Non, jamais.
Ah ouais?
Non, jamais.
Parce que moi, j'ai tout eu hein, de la personne qui médite un peu, qui dit « Ah ouais, c'est vrai, ça me calme, je suis moins anxieux, je suis moins je me pose moins de questions », à la personne qui dit « J'arrive à voir mes pensées, à comprendre la manière dont mes pensées fonctionnent », un petit peu plus loin. Et puis, il y a ceux qui partent en transe et qui... tu connais peut-être Naval?
Naval, non,
c'est un podcasteur. Enfin... philosophe, entrepreneur, podcasteur qui disait que parfois ça pouvait ressembler à des effets de des gens qui prennent des champignons hallucinogènes ou des drogues comme ça quoi.
Il y avait pas un petit cacheton d'extasy Non, je plaisante, évidemment que je plaisante.
Non,
peut-être qu'on peut être tellement entraîné.
Je suis sûr qu'ils partent très loin.
Ah, j'en doute pas. Hein. Peut-être qu'on peut être tellement entraîné et avoir un niveau tellement avancé là-dedans que on peut atteindre ce genre d'état-là. J'ai jamais rencontré personne qui m'a raconté ça. Et moi, même moi, de toute façon, c'est pas un truc qui va forcément me... Enfin, j'ai pas envie de m'améliorer là-dedans. Parce que je suis quand même plutôt pragmatique et j'aime bien améliorer mon bien-être via des choses qui sont mesurables et qui sont en général prouvées. Même si la méditation, il y a quand même des preuves que c'est bien, je préfère le pragmatisme de me dire « Attends, je vais faire attention à mon sommeil, mon alimentation, mon entraînement, mon téléphone, la lumière rouge, la lumière bleue. c'est mon caractère. Et du coup, ça me va un peu mieux.
Ouais. Non, mais je suis à peu près comme ça. Enfin, je suis comme ça aussi. Moi, déjà, ça arrive à réduire mon anxiété.
Ouais.
Et si j'arrive à observer un peu plus mes pensées lorsqu'elles arrivent, déjà, ce sera déjà un bel accomplissement. Mais c'est marrant de voir qu'une simple habitude gratuite comme celle-ci, elle peut. Il y a des gens qui jurent aussi que par ça, quoi. Moi, j'ai rencontré des pro-méditations qui sont hyper. S'ils n'ont pas leur méditation.
Ah ouais, j'en doute pas, hein, que ça devient un peu un réflexe et puis une habitude, et tant mieux. Hein.
Okay.
Tant mieux.
Et donc, on a parlé de beaucoup de choses, méditation, EMF, lumière rouge, douche froide, t'en fais toujours?
Ah oui, mais ça, j'abonde déjà, ça c'est à vie. C'est à vie.
Ouais, plus mais jamais, ça c'est pareil, crois. Ceux qui font des douches froides, ils ne jurent que par ça ensuite. Mais
c'est trop bien.
Et limite, l'eau chaude, c'est. Non, c'est trahison quoi. Non, j'aime trahison bien. Avec mon eau froide.
J'aime bien l'eau chaude. Et en fait, ça dépend des fois. Des fois, je commence ma douche avec de l'eau chaude. Je la termine toujours avec de l'eau froide, sans aucune exception. Et des fois, je prends une douche full froide. Mais en vrai, ça dépend. Tu vois, par exemple, ce soir, je me vois bien commencer avec de l'eau chaude parce que j'ai fait du fractionné. Je vais faire une séance jambes tout à l'heure. Je suis un peu KO. Mine de rien, ça relaxe l'eau chaude. Et après, j'aime bien la douche froide parce que c'est une sensation bizarre, en fait. C'est une sensation bizarre, mais je ne peux plus m'en passer. Et vraiment, je passe de chaud à froid direct. Il n'y a pas de progression. Et je reste entre 2 et 3 minutes... exposé à l'eau froide.
Ça, c'est un bon conseil pour les personnes qui n'ont jamais fait de douche froide, c'est de commencer par de l'eau chaude ou tiède,
ouais.
Et ensuite de finir par de l'eau froide.
Absolument.
C'est beaucoup plus simple, je trouve, et tu as les bienfaits de l'eau froide après quand tu sors de la douche, totalement. À condition d'y être resté au moins 2 minutes, je dirais.
Ouais, absolument, absolument. Mais comme tout, c'est une histoire de progression. Moi, j'y vais comme un bourrin parce que je suis habitué. Mais les
oui, ça fait quelques années quand même.
Ouais, ça fait quelques années, et les 30 premiers jours où j'ai pris des douches froides, j'y allais progressivement. Donc, je prenais ma douche chaude assez rapide, juste le temps de me savonner, etc. Et puis après, je faisais 30 secondes un peu plus froid, 30 secondes encore plus froid, 30 secondes au max du froid. Et ça m'allait bien, tu vois, 1 minute 30 pour m'habituer. Et puis petit à petit, j'ai repoussé un petit peu ça jusqu'à prendre des douches full froides. Mais je suis un peu dégoûté parce que j'ai déménagé il y a 3 mois et l'eau n'est pas si froide que ça dans mon nouvel appartement.
Ah, il y a des différences entre l'eau.
Ouais, je pense en fonction des canalisations, où elles vont, à quoi elles sont exposées. L'eau froide de chez moi elle est pas si froide.
Et moi je crois que comme j'habite en Normandie, faut que je fasse gaffe parce que j'avais fait une douche full froide un jour,
ouais.
Et j'avais des gros tremblements après et j'ai failli faire un malaise.
C'est bon ça.
Mais je me suis demandé si est-ce que je suis une Lopez parce que j'ai pas. Alors il y en a plein qui font des douches froides parce que et ils ont l'air de dire qu'ils se sentent bien après. Et moi j'étais là, quand j'ai pris cette douche froide j'avais l'impression que j'allais mourir.
Ouais mais c'est un réflexe naturel.
Ouais mais je me demandais si c'est parce qu'il y avait des grosses différences entre les foyers et entre les régions. Entre l'eau la plus froide d'un foyer et l'eau la plus chaude.
Moi, je pense que t'es pas très courageux, c'est tout.
Mais non, mais. Ouais.
Non, si.
Cette douche froide, elle m'a claqué. Mais...
Blague à part, c'est sûr qu'il y a des différences. Rien que ce week-end, j'étais dans une autre ville, dans un hôtel, l'eau était beaucoup plus froide. C'était à Genève d'ailleurs. Je sais pas comment ça se passe en termes de température d'eau froide, mais oui, c'est sûr qu'il y a des différences. Mais les tremblements sont normaux. Et c'est à ce moment-là, justement, qu'il faut essayer de calmer sa respiration. Donc les exercices de respiration peuvent être cool. Je ne sais pas si tu connais Wim Hof, je pense que oui. Lui, il jure que par les exercices de respiration quand il est confronté au froid glacial. Et il le dit même explicitement, j'aime pas le froid, tu vois, ça me fait mal. Mais grâce aux exercices de respiration, bah, je peux supporter un peu cette douleur.
Et j'avais entendu une phrase dans un podcast dont je me souviens de la phrase. Qui disait que une personne parlait des douches froides et elle disait qu'elle avait jamais réussi à être déprimée après une douche froide. Et je trouvais ça beau parce que alors il y en avait quelqu'un en avait parlé aussi dans le sens où ça pouvait réduire ton anxiété d'une manière ou d'une autre. Je me souviens plus exactement des phénomènes derrière ça, des phénomènes physiologiques, mais c'est vrai que j'ai rarement été déprimé après une douche froide.
Ouais.
Et c'est marrant de le voir comme ça. Je trouve où beaucoup de personnes cherchent à être heureuses et cherchent le bonheur. Je trouve que déjà, si on arrive à ne pas être malheureux grâce à quelque chose, ça peut nous aider ensuite à être plus heureux.
C'est carrément bien. C'est carrément bien. Pour tout ce qui est des phénomènes physiologiques ou même des justifications scientifiques, c'est pas encore la folie. Hein. Il y a beaucoup de personnes qui vont dire que ça sert à rien parce que la littérature scientifique dit que bon, bah, ça va pas améliorer ton bien-être. Après, encore une fois, avec la littérature scientifique, on sait ce qu'on peut en faire, tu vois. Ça dépend des échantillons, ça dépend des conditions de l'étude scientifique. Pour moi, c'est quelque chose qui est tellement facile à expérimenter, qui est gratuit, tout le monde peut le faire, ça serait dommage de s'en priver, et ça serait dommage de ne pas essayer pendant 15 jours ou 3 semaines, juste pour voir si c'est quelque chose qui peut nous convenir. Là, vraiment, on a rien à perdre.
Et d'ailleurs, tout ce qu'on a cité quasiment depuis le début...
Tout est gratuit.
Quasiment tout est gratuit, à part la lumière rouge.
Ouais.
C'est peut-être un des seuls investissements qu'on a mentionné, mais sinon, douche froide, se lever sans réveil, regarder la lumière du jour les premières heures, ouais. Baisser la lumière lorsqu'on arrive au soir pour la production de mélatonine, douche froide, méditation.
Mais oui, tout est accessible à tout le monde. Mais sauf que ça demande des fois un changement d'habitude, un petit, voire même un gros changement d'habitude pour certains. Hein. Donc c'est difficile de remettre toutes ces habitudes en question et de se dire, à partir de maintenant, je vais couper ma télé à telle heure, je vais ne pas mettre de réveil, ce qui implique que je vais devoir m'entraîner à me coucher plus tôt et à me réveiller sans réveil pour ne pas arriver en retard au boulot. Ça demande des petits sacrifices, quoi. C'est pas la mer à boire, hein, mais bon.
Est-ce que tu trouves que c'est plus simple de le faire par package, de prendre tout d'un coup, quasiment, de faire tout d'un coup, ou de faire petit à petit, d'abord je vais essayer de me coucher un peu plus tôt, me lever un peu plus tôt ?
C'est une bonne question. Je vais te donner deux réponses. La réponse qui me concerne moi, me dirait de package.
Oui, j'étais sûr.
Ah, oui. Tout d'un coup, c'est tout ou rien. Et après, j'ai un peu la réponse du coach, parce que je fais aussi un petit parallèle avec la musculation. Je trouve que c'est bien d'intégrer une habitude à la fois pour vraiment identifier si elle a un impact ou pas. Parce que si tu intègres tout en même temps et que ça fonctionne, mais tu ne sais pas exactement ce qui fonctionne pour toi. Alors que si tu intègres petit à petit des habitudes, tu testes la douche froide pendant X jours, tu testes le réveil sans réveil pendant X jours, ben, tu auras un petit peu plus de recul sur ce qui va être intéressant pour toi. Ça prend un peu plus de temps, mais disons que c'est un investissement sur les moyens et long terme. Donc au final, ça dépend des caractères et des sensibilités.
Ouais, c'est vrai que tu as connu beaucoup de clients au fur et à mesure des années, donc beaucoup de personnes étaient différentes. C'est vrai que moi, dans mon entourage, c'est souvent des personnes qui préfèrent le faire par package. Mmh. Et moi-même, je préfère, après une grosse... Parce que c'est souvent après un déclic ou une réaction émotionnelle de « j'ai envie de changer ». Et je pense que je me vois plus faire ça et je pense que mon entourage se voit plus faire ça. C'est vraiment tout changer, essayer de changer le plus de choses le plus rapidement possible.
Mais le souci avec ça, c'est que effectivement, on a envie de tout changer le plus rapidement possible pour qu'il y ait les résultats les plus rapides possibles. Mais est-ce que ça va être des habitudes que tu pourras conserver sur le long terme ? Je ne parle pas de toi personnellement, mais je parle de toutes les personnes qui seraient encouragées à suivre ça. Si jamais tu suis tout en package, mais qu'au bout de 2 mois, bah, tu lâches tout, ce n'est pas intéressant. Alors que si tu fais tout de manière progressive, mais que ça te prend 4 mois, mais que c'est des changements qui vont durer toute ta vie, bah, c'est mieux. Ça t'aura pris 2 fois plus de temps, mais virtuellement, tu gagnes au change parce que ça sera vraiment des habitudes qui seront intégrées à ton quotidien. Donc, c'est là où je voulais en venir en disant que j'ai une réponse de coach. C'est que même si effectivement j'ai eu des clients qui étaient intéressés par tout d'un coup, je veux un déficit calorique, je veux faire du cardio, je veux augmenter ma fréquence d'entraînement pour changer le plus vite possible, bah, le problème c'est qu'en général, au bout de quelques semaines, ils n'y arrivent plus.
Ok.
Un sacré mental hein, pour changer en tout d'un coup et s'y tenir. Je ne dis pas que j'ai le mental le plus incroyable du monde, mais je pense que je me suis tellement entraîné à le faire que maintenant, je sais de quoi je suis capable. Et demain, que ce soit pour de la perte de gras ou pour l'amélioration de certains aspects de ma vie qui seraient un petit peu liés au développement personnel, je sais que je suis capable de le faire.
Faut un sacré mental, faut beaucoup souffrir. Faut beaucoup avoir souffert avant d'une situation. Et j'ai remarqué que... Ouais. Enfin, en tout cas, quand j'ai changé mon mode de vie, c'est parce que j'avais beaucoup souffert avant, d'un coup. Et comme j'avais souffert d'un coup... J'avais envie de changer tout d'un coup. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui pourront penser comme ça, mais il y a peut-être des personnes qui n'ont pas forcément de douleur particulière, qui n'ont pas souffert d'un coup, mais qui vont changer leurs habitudes pour que demain soit un petit peu meilleur à chaque fois. Je pense que ça, tant mieux pour ces personnes, mais j'ai remarqué que la plupart des personnes, elles ont souffert beaucoup à un moment. Et donc, elles ont envie de se mettre à la salle, elles ont envie de se buter à la salle, elles ont envie de changer tout leur mode de vie d'un coup. Mais okay, intéressant déjà d'avoir ton avis là-dessus. Et je profite d'être avec un coach sportif. Un coach sportif, un des plus connus de France en plus.
Qui ça? Moi?
Bah oui, ça, Nassim. On te voit à Décathlon maintenant, Nassim.
Ah ouais, ça, c'est stylé quand même.
J'ai vu quand t'avais fait le snap avec ton Nassim Saïli en pancarte et tu t'es marré avec de Décathlon.
Il est à la salle, hein, tu le verras tout à l'heure.
Ah oui? Ah yes. Bah oui. Bon, c'est vrai que t'as quand même une notoriété maintenant. Et moi, je profite. Je pense que le Grégoire, il aurait rêvé il y a 6 ans de pouvoir te poser des questions. D'ailleurs, c'est marrant parce que tout à l'heure, on va aller à la salle et tu vas faire mon analyse morphologique, c'est ça?
Absolument.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Et il y a 6 ans, je me rappelle, avec les vidéos de toi et de Lucas Gouif aussi, qu'on parlait pas mal, parfois je me regardais dans le mur et je faisais, est-ce que j'ai des longs dorsaux ou est-ce que j'ai...
Et bah tu vas avoir la réponse tout à l'heure.
Et je calculais si j'avais un biceps court ou long, tu sais.
Un mort de rire.
J'avais avec vu dans...
Ouais. Sur l'articulation, bien sûr.
Merde, je peux mettre 2 doigts, donc c'est un des biceps courts. Bah, je profite de, on va dire, pour la personne qui veut se transformer à la salle. On va prendre l'exemple de Grégoire, typiquement il y a 6 ans. Il sort d'une rupture amoureuse. Il a envie de se transformer en 6 mois. Bon, c'est pas un gros délai, mais on peut dire sur 1 an, 2 ans. Mais qu'est-ce que tu conseilles à une personne qui veut se transformer physiquement le plus vite possible, sans compromettre sa santé, en restant naturel évidemment, et en 6 mois pour tout exposer à la salle?
Une question difficile. Hein.
Ouais, t'es ouf. Je m'en rends compte.
C'est une question difficile.
Parce que t'as trop de facteurs en tête, t'as trop de...
Il y a trop de facteurs en tête. Après, je peux rester général et quand même donner des conseils qui pourront s'appliquer à tous, sans rentrer dans le détail de la programmation d'entraînement. Tu fais des séries de 6 ou des séries de 20. Ouais. Ça, on s'en fout un peu et c'est assez indépendant en fonction de l'expérience de la personne, etc. Je pense que la chose la plus importante, c'est déjà de bien s'entourer. Donc, en l'occurrence, d'un coach. Et ça, c'est valable pour absolument tout. Je sais qu'on aimerait bien pouvoir tout faire tout seul. Ça provoque une satisfaction personnelle. Le problème, c'est que c'est dur. C'est dur et je ne parle pas que de la musculation, je parle de tout. Ça peut être la diététique, ça peut être les relations amoureuses, ça peut être le business. C'est dur de s'en sortir tout seul et ça prend du temps. Et quand on n'a pas le temps, on a un choix à faire. C'est soit tu t'y prends tout seul et tu vas être obligé de faire les recherches nécessaires qui vont te prendre plusieurs semaines, plusieurs mois, voire même plusieurs années. Et du coup, ton objectif de transformation en 6 mois, il sera impossible à atteindre. Soit tu mets ta confiance en quelqu'un d'autre, tu lui dis, toi, tu es un professionnel, transforme-moi. Et du coup, le deuxième conseil, il découle un peu du premier, c'est de faire confiance à ce professionnel. C'est de lui faire une confiance aveugle et de suivre tout ce qu'il te dit de faire. C'est-à-dire que si toi demain, Grégoire, tu dis « Nassim, je te veux comme coach, je veux me transformer en 6 mois, je mets ma confiance dans tes mains. » Et que demain, je te dis « Il va falloir que tu te réveilles à 6 heures tous les matins pendant 6 mois, eh ben, j'aimerais bien que tu le fasses. » Et il ne faut pas se poser de questions, il faut le faire. Parce que si tu as fait la confiance au professionnel en te disant « Ok, Nassim, je sais qu'il a des connaissances, je sais qu'il arrivera à me transformer, eh ben, tu ne remets pas en question ce que je dis. » Et pour moi, c'est... Le plus gros, c'est même pas un détail, hein, c'est le plus gros facteur de progression, c'est que beaucoup de personnes, d'une part, ont envie de faire tout toute seule, et d'autre part, ne font pas confiance aux personnes auprès desquelles elles vont prendre les conseils.
Ok.
Voilà.
Et ok, donc faire confiance à un professionnel, et ok.
Surtout quand on a un objectif, tu vois, de temps. Si tu m'avais dit, je vais me transformer en 4-5 ans, et que je suis intéressé par la musculation, je t'aurais encouragé à faire tes recherches nécessaires, à faire tes recherches personnelles. Parce que ça peut être enrichissant, effectivement, mais ça va prendre un peu plus de temps. Par contre, tu me dis, bah, la musculation, j'aime bien, mais bon, c'est pas non plus le truc qui me passionne le plus. Moi, tout ce que je veux, c'est changer en 6 mois. Alors là, c'est différent. Là, tu prends un professionnel et tu l'écoutes. Vraiment, tu l'écoutes. Ce que je fais actuellement pour la course à pied. Je ne pose pas de questions. J'ai décidé d'avoir un coach. Il m'a dit, tu cours 4 fois par semaine, tu fais ça, 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 ça. Je dis, ok. Je vais pas lui dire pourquoi je cours à ce rythme-là alors que je pourrais aller plus vite. Pourquoi je fais que 6 sprints et que j'en fais pas 8. Pourquoi je prends 4 minutes de récup alors que je pourrais recommencer au bout de 2. Non, je me tais.
Ouais.
Nassim, tu dois faire ça. Nassim fera ça. Et il fera ça pendant 6 mois. Il va pas poser de questions. Et après, si à la fin du marathon, je trouve que j'aurais pu progresser plus ou que le suivi n'a pas été à la hauteur de ce que j'espérais, bah soit je vais confronter le professionnel, soit je vais en prendre un autre. Mais je ne vais pas remettre en question toute la préparation qui a été faite. Parce que sinon, on n'avance jamais.
Ok. Alors, il y a beaucoup de personnes qui... On en avait parlé sur le premier podcast qu'on a fait. Beaucoup de personnes qui se mettent en salle après une rupture amoureuse.
Dont toi.
Dont moi, oui. Bah, moi, j'ai l'exemple classique. Hein, il n'y avait pas d'originalité là-dessus. Toi, ça fait 15 ans que tu fais de la muscu.
Et 16 ans.
16 ans que tu fais de la muscu, c'est quasiment mon âge.
Bah merci, hein, c'est bon, on a compris. Ah
non, c'est bien, c'est fort. Ça. C'est 16 ans, c'est bien, c'est rare. Surtout que tu le fais toujours avec autant de passion. Je me demandais si, s'il y avait quelque chose derrière, si c'est vraiment toujours par passion que tu t'entraînais, ou s'il y avait justement une douleur qui était présente à un moment. Parfois, c'est un sentiment d'infériorité, parfois, c'est un sentiment de ne pas aller au bout de son potentiel. Parfois, c'est une rupture amoureuse, une envie de se venger. Est-ce qu'il n'y a pas des motivations un peu plus profondes derrière ces 16 ans d'entraînement ?
Il y a sûrement des motivations profondes, mais qui ne sont pas liées à la douleur. Parce que moi, j'étais à l'autre côté du spectre. Je n'avais pas un sentiment d'infériorité. Au contraire, j'avais vraiment beaucoup confiance en moi, même à l'adolescence, quand j'étais comme ça, quand je faisais 68 kilos. Donc, c'est peut-être très prétentieux de dire ça, hein, mais c'était le cas. Même avant de commencer la musculation, je me trouvais déjà musclé, pour te dire. Hein.
Ah oui, d'accord.
Non, vraiment, j'avais aucun souci avec mon physique. Et même à l'adolescence où tu vois, ta morphologie, elle change un petit peu, t'as des boutons, tu vois. J'avais objectivement pas un corps musclé, mais j'étais à l'aise avec mon corps. Et pour moi, faire de la musculation, c'était naturel, en fait. C'était, c'était une évolution normale de ma vie, en fait. C'était rentrer dans la vie adulte aussi. Parce qu'il y a 16 ans, tu pouvais pas trop faire de muscu quand t'étais adolescent. Les salles de sport, elles t'acceptaient pas forcément. Donc moi, j'ai attendu d'avoir 18 ans pour m'inscrire. Et du coup, ouais, pour moi, c'était vraiment une logique. Alors, pourtant, c'est assez paradoxal, hein, parce que j'étais pas sportif. Mais je sais pas pourquoi, dans ma tête, et surtout avec tous les exemples que j'ai eus quand j'étais plus jeune, je parle en l'occurrence de Schwarzy, de Bruce Lee, etc., que des physiques musclées, je pense que ça a ancré dans quelque chose dans mon inconscient qui fait que il fallait que je fasse de la musculation.
Okay, donc
il fallait que je me retrouve avec un physique musclé.
Donc c'était plutôt des inspirations qui te poussaient vers le haut plutôt qu'un sentiment de...
Ouais, non, il n'y a pas eu de rupture, il n'y a pas eu de douleur, il n'y a pas eu d'humiliation au collège.
C'est nul, je ne peux pas faire pleurer Nassim, quoi.
Ah non, pas sur ça. Je peux me faire pleurer sur d'autres choses, mais surtout pas sur ça, parce que ouais, la muscu, il n'y a pas eu de rapport... Il n'y a pas eu ce genre de rapport avec.
Ça te rend triste de voir tes idoles vieillir, comme Schwarzenegger, par exemple ?
Non, bah non, ça fait partie. Ah, tu voulais me faire pleurer que ça ? Non.
Tu l'as vu en plus, Arnold ? Tu l'avais. C'est la première fois où je te voyais vraiment fan de.
Ouais. Je ne l'ai pas vu, je lui ai serré la main.
C'est la première fois où je te voyais vraiment fan, t'étais là. Ah non, non, non.
Je t'aime, je lui ai dit. J'ai dit, je t'aime, Arnold, en lui serrant la main. Il n'a rien compris.
C'était à l'Olympia en Espagne ?
C'était à l'Arnold Classic en Espagne.
En Espagne, ouais. Ok.
C'était tellement cool. Mais oui, sur Arnold, je fanboy 100%. Mais même sur d'autres personnes, j'ai aucun mal à dire que si je les vois, je serais complètement, tu vois, surexcité et que j'essaierais d'avoir mon petit selfie, de. Serrer la main, faire un câlin, tu vois. Avec Mike Horn, c'était un peu le même délire aussi, hein. Mike Horn, bon, c'est pas exactement la même chose, parce que Mike Horn, je l'ai connu il y a pas à la même époque que Schwarzenegger, mais quand même ça faisait quelque chose, tu vois. Et c'était hyper hyper cool, en mode fanboy, de rencontrer quelqu'un qui a accompli autant de choses et qui est un peu un exemple.
Ok, t'as dit qu'il y a pas de rupture amoureuse qui a commencé le fait que tu sois allé à la salle de sport?
Non.
T'en as pas eu dans les dernières années?
Bah, aucune qui a justifié un changement radical de okay. Mode de vie.
Parce qu'en fait, t'as fait deux vidéos quand même avec un coach, une coach en séduction et un coach en séduction. À quel point c'est important pour toi les relations dans la vie? Si tu devais donner un pourcentage, par exemple 30% de musculation, ton bonheur, toi c'est 30% de musculation, 30% entrepreneuriat et je sais pas, 40% relations. Ce serait quoi, toi ?
Alors, je sais pas si je pourrais donner un pourcentage, mais c'est clair que l'aspect social et relationnel, que ce soit homme-homme, homme-femme, jeune-vieux, tu vois, patron-employé, pour moi, c'est super important. Et c'est pour ça que je suis intéressé par la séduction au sens large du terme. C'est pas juste pour séduire une femme, c'est pour virtuellement séduire tout le monde, tu vois. Je me rappelle que je l'ai cité dans plein de podcasts, j'avais lu les 48 lois du pouvoir, mais juste après, j'ai lu les 48 lois de la séduction. Du même, ouais. Les 48 ou les 50 ? Je sais pas.
Robert Greene. Ouais, je sais plus combien il y a de ouais, règles.
S'en fout, mais c'était les lois.
Il y en a beaucoup quand même. Hein.
Il y en a sûrement beaucoup, mais du coup, mon frère avait acheté les deux livres. En fait, il en avait acheté trois. C'est les 48 lois du pouvoir, les lois de la séduction de Robert Greene et The Game de Neil Strauss. Et c'était un peu le délire pick-up artist, comment les mecs aux États-Unis dans les années 2000 faisaient pour draguer et coucher avec une femme différente tous les soirs. Après, on était assez jeunes, donc c'était un peu fascinant de voir ça. Non pas qu'on avait ce désir-là, mais on était plutôt intéressé par les relations et être séduisant, mais vraiment au sens large du terme. Pas juste avec les femmes, mais avec tout le monde. Parce que ça, comment dire, ça améliore les rapports humains en fait. C'est plus cool, c'est plus agréable de passer du bon temps avec quelqu'un, de séduire ou de se sentir séduit. Voilà d'où vient l'intérêt.
Ok, donc pas de pourcentage, mais c'est une partie importante de ta vie.
Ouais, c'est une partie importante parce que là, tu as mentionné des trucs, mais on pourrait mettre le cinéma aussi, tu vois, l'art dans le pourcentage. On pourrait mettre plein d'autres trucs, donc c'est un peu compliqué. La bouffe, les tartes au citron, tu vois, ça fait partie du pourcentage.
Ah oui, ça, les gens le savent
pas.
Ah
ouais, donc c'est hyper compliqué, il y a tellement de choses. Et j'ai pas envie de me limiter à peut-être trois aspects, genre entrepreneuriat, muscu et puis séduction. Il y a trop de choses. Mais oui, les relations, c'est quand même hyper important.
Pour ceux qui ne le savent pas, Nassim a une story privée sur Instagram, dont j'ai la chance de faire partie. Et pour ceux qui se demandent, c'est souvent des images de nourriture. Des Comment tartes au citron.
Ça, c'est faux. Si, si c'est vrai.
Si.
Et des tagliatelles aux truffes ce week-end. Ah là, oui. C'était bon. Ah, t'as pas vu, hein, ça. Hein.
Ah, mais c'est une question que je voulais te poser, justement. Tu avais fait un podcast avec Enzo Honoré récemment.
Ouais.
D'ailleurs, t'as fait beaucoup de podcasts récemment. J'ai perdu un petit peu l'exclusivité. Avant, t'en faisais pas beaucoup des interviews. Ouais, et là, il y a Eric qui est arrivé, il y a Enzo. Et.
Il y a d'autres aussi que j'ai fait, t'es pas au courant, hein.
Où t'as été interviewé ?
Ouais.
Ah ouais ? Qui vont arriver ?
Ouais.
Ok. Bon, bah là, j'ai plus du tout l'exclusivité.
Non, mais t'es mon préféré.
Attends que je finisse les questions. alors, première question. T'avais fait une story où tu étais dans un restaurant, que t'es sympa.
Ouais.
Où tu disais « work out, play hard ».
Story privée.
Story privée.
Mais pourquoi tu dévoiles mes stories privées ?
Après, j'ai pas dit le lieu, j'ai pas dit... En tout cas, c'était un restaurant sympa. Et... quand est-ce que tu play hard ? Tu play hard le week-end plutôt, après le travail ?
C'est vraiment une phrase de kéké, mais elle allait bien sur la story, tu vois. Oui. C'est quand même une phrase de kéké. Oui. C'est une vraie phrase de beauf, mais j'assume ma partie un peu kéké, un peu beauf.
C'est pas kéké, c'est plutôt 2015.
Ouais.
C'était les citations Instagram qu'on disait beaucoup, je trouve, en 2015.
C'est vrai. C'est assumé.
Même no pain no gain, hein, c'était plus personne dit ça maintenant.
Plus personne dit ça.
Alors que c'était que ça.
Absolument. Tu viens de me faire comprendre, réaliser que j'étais vraiment un sacré boomer.
Non, mais regarde, même moi j'étais là, hein. En 2015, à fait No Pain No Gain. Je voulais le suite No Pain No Gain à l'époque. Là.
Bon, bah ça va alors. Ça va. Et donc, c'était quoi ta question ?
Qu'est-ce que tu fais quand tu. Parce que tu montres beaucoup quand tu travailles dur. Je crois que tu avais fait 12 séances de muscu ou 12 séances de sport la semaine dernière. Tu avais calculé toutes les séances avec
Cette semaine, ça va être la même.
Ouais. Donc,
Et la semaine d'avant, c'était ça aussi.
Ah, c'est fou, hein. C'est un gros planning. Et donc, tu travailles dur, tu le montres beaucoup et on le voit beaucoup avec tous tes contenus. C'est quoi que tu fais lorsque tu as envie de décompresser ?
Ça dépend. En fait, je ne suis pas très fêtard en mode je ne vais pas aller souvent en boîte de nuit, voire même très rarement. Moi, j'aime bien le cinéma. Genre, tu vois, aller au cinéma, tout seul d'ailleurs.
Ah ouais.
J'aime pas quand. Enfin, c'est pas que j'aime pas aller au cinéma avec d'autres personnes. C'est que quand je vais voir des films que j'adore et je sais qu'ils vont me provoquer quelque chose, parce que le cinéma, ça me provoque vraiment quelque chose. Hein. On parlait de pleurer tout à l'heure. L'un des endroits où je peux pleurer, c'est vraiment devant un film. Y a des trucs que j'ai envie de voir tout seul. Après, aller au cinéma avec un gros paquet d'M&M's devant un blockbuster bien débile, ça c'est génial aussi. Et ça, tu le fais avec d'autres personnes. Mais pour des films que j'apprécie un peu plus, où j'ai envie de me retrouver avec moi-même, ça, je trouve ça cool.
Ok, je vois aussi ce que tu veux dire avec le fait de quand t'as vraiment envie de voir quelque chose, t'as pas envie d'avoir des gens qui commentent à côté. Ça me faisait ça parfois dans les matchs de sport que j'avais le plus envie de suivre. J'ai pas envie que. Surtout des gens qui sont pas dans le. Qui comprennent pas l'intensité de ce qui est en train de se passer, ouais.
Mais non seulement j'ai pas envie de les entendre commenter, mais j'ai pas envie de les voir aussi déçus alors que moi je kiffe, tu vois. Ça me ferait chier de sortir de la séance en me disant putain, mais ce film il était génial et d'avoir la personne qui m'accompagne complètement insensible. Donc tu vois. Je préfère le garder pour moi parce que c'est un truc qui me fait plaisir. Je pars en vacances tout seul aussi. Tu vois, en août, j'étais en Norvège tout seul. Donc ça, c'est un truc qui me permet de décompresser, de faire mes petits randos, de voir du beau paysage, de prendre des photos, de sortir mon drone. Ça, c'est trop bien. Et puis après, l'aspect fête, décompression au sens classique du terme, parce que la plupart des gens, quand ils te disent est-ce que tu prends du temps pour toi, tu vois, cette fameuse phrase, ou est-ce que tu t'amuses, pour eux, c'est sortir au resto, boire des coups et aller en boîte. Je le fais assez rarement. Et quand je le fais avec des gens que j'apprécie vraiment, tu vois, avec qui je sais que je vais passer une bonne soirée. Et je me force, comme on l'a dit dans mon podcast, hein, je me force jamais à le faire. Mmh. Et là, en l'occurrence, c'était un pote qui est DJ, qui mixait dans ce resto-là. Donc, je l'ai accompagné avec d'autres amis. On allait le soutenir un petit peu. On a passé une super soirée, on a bien mangé. Et ça, c'était cool. On s'est couché à 4h du mat, on s'est réveillé à 8h.
Avec réveil ou sans réveil ?
Bonne question. Attends, est-ce que j'ai... Ah non, je crois que j'ai mis un réveil parce qu'il y avait un train à prendre. Oui, là, j'ai pas eu le choix.
Ok.
Mais bon, vu que le rythme circadien...
Le mec était... chiant. Ah, t'avais dit que tu mettais pas ton alarme.
Non, mais on lui a dit un peu fuck you au rythme circadien. Donc, fallait mettre un réveil, tu vois.
Ok. T'as fait pas mal d'interviews ces derniers temps, comme tu le disais. J'imagine qu'on t'a posé plein de questions. J'espère que celle-ci est un petit peu différente de celle que tu as pu... cette interview est un peu différente de celle que tu as pu avoir. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais bien aimé qu'on te pose, qu'on t'a pas posée?
Ah, laisse-moi réfléchir. J'ai ouais, dit ça, juste avant. Hein,
on arrive dans les questions introspection, donc je laisse plus de temps.
Je tourne cette fois ma langue dans ma bouche avant de parler.
Ah oui, c'est vrai.
Je l'ai dit juste avant. Une question que j'aurais bien aimé qu'on me pose. Je sais pas, je pense qu'on a fait quand même preuve de pas mal de curiosité avec moi. Et du coup, j'ai réussi à parler de choses qui étaient très intéressantes. Et j'ai pour l'instant rien laissé de côté. Hein. Donc, il y a des choses plus perso que je ne partagerai même peut-être jamais en podcast, tu vois. Et si on me posait la question, ça me gênerait plus qu'autre chose. Mmh. Mais donc, pour l'instant, non, des sujets que j'aime bien aborder, on me les a posés assez souvent dans les podcasts. Donc, pour l'instant, c'était des discussions qui étaient très cool.
Ok. Tu avais parlé dans un podcast que tu étais fan de montres.
Oui, enfin ouais. Fan, c'est un grand mot parce que je suis encore un peu novice là-dedans.
Ah ok.
Je suis encore un peu novice de savoir comment fonctionne, tu vois, réellement une montre automatique par exemple. Tu vois, je commence tout juste.
Ok.
Et j'aime bien ça, effectivement.
Ok. Elle est validée cette montre, c'est bon.
Complètement, je te l'ai dit la première fois en plus.
Ah oui, c'est vrai, tu l'avais remarqué dès le début.
Ouais, j'ai bien capté, hein. Tu crois que je commence à avoir l'œil.
Mais c'est ça qui est cool, c'est que t'as plein
Est-ce
de.
Est-ce que tu valides la mienne C'est pas automatique, mais.
C'est une Apple Watch.
Ouais.
Pour savoir que t'es pas et t'es.
Bah, ce matin, forcément, sens de fractionner, tu vois, c'est quand même plus facile de traquer ça. Quand je fais de la course à pied, c'est quand même un bon outil. Okay. Et puis, je garde mes montres pour quand je suis au resto, par exemple, comme le week-end dernier ou quand je fais des sorties. Okay. Mais dans la vie de tous les jours, je les porte assez rarement.
Ouais. Bah, c'est vrai que c'est plutôt des montres que tu mets... quand tu as des belles montres, tu les mets plutôt pour des événements en particulier.
Ouais, voilà.
Ok.
Exactement.
T'as une Oura Ring aussi?
J'ai une Oura Ring, ouais. Alors là, celle-là, je la
pour
quitte
pour le sommeil,
pas.
Ça.
Hein?
C'est pour le sommeil.
C'est pour tout, je la quitte pas. Même à la muscu, tu vois, elle est quand même bien rangée.
Ouais.
Donc, je sais pas si... On le verra peut-être pas à la caméra, mais c'est une bague qui traque pas vraiment les activités. Donc, ça traque pas la musculation, mais je la garde quand même parce que je veux vraiment la voir le plus de temps possible. Et le seul moment où elle quitte mon doigt, c'est quand je la recharge pendant une demi-heure tous les soirs.
Okay.
Pendant que je suis sous ma douche froide. Okay. Ça ne dure pas une demi-heure, mais c'est pendant ce temps-là qu'elle se recharge.
Ok, ça marche. Nassim, j'ai un petit jeu à te proposer.
Allez. Je sais déjà.
Je l'ai dit. Bah oui, alors, il faut savoir que Nassim m'a demandé de quoi on allait parler. Je lui ai donné aucun indice, mais je lui ai dit on jouera un petit surcôté, sous-côté. Parce que j'ai remarqué que récemment, tu as pas mal fait ce genre de vidéos.
Ah ouais, c'est trop bien.
Sur côté, sous côté.
Ouais.
Donc j'ai 15 choses. Va falloir enchaîner sur côté, sous côté.
Ah ouais, là, il
n'y
a pas de temps de réfléchir. Ouais. C'est ça qui est difficile pour moi.
Et si jamais, tu sais que tu es à la maison, là, Nassim, tu peux, si jamais tu veux que je supprime une réponse ou que je bip, on pourra.
Il n'y a pas de joker.
Non, il n'y a pas de joker.
Ok, je vais jouer le jeu. Est-ce qu'il y a des trucs un peu. C'est des pièges ou pas?
Oui.
Si tu me demandes. Je rigole en plus. Tu vas me demander si certaines personnes sont sous-côté ou sur-côté.
Alors, je sais que c'est sur les personnes, donc j'en ai mis que deux.
Tu t'es mis toi ou pas?
Non, je me suis pas mis moi. Mais sinon, c'est plutôt des principes dont on a parlé un petit peu avant. Donc,
vas-y, je joue le jeu.
Ok?
Je joue le jeu. Ouais.
On commence.
Attends. Est-ce qu'il faut une justification?
Non.
Je dis juste sous-côté et on passe à la suite.
Tu pourras justifier après si tu veux.
Ok, ça roule.
Je te laisse forcément répondre après quoi. On commence. Première réponse, Nassim Saïli.
Sous-côté.
Sous-côté. La contraction volontaire.
Sur-côté.
Se lever à 4h du matin.
Sur-côté.
La lumière rouge.
Sous-côté.
Un bon petit running de 5 km.
Sous-côté.
Rudy Koya.
Ah, sur-côté. Enfoiré, ouais.
La lecture.
Sous-côté.
Les cheveux bouclés.
Sous-côté.
J'ai vu que t'avais commencé.
Elles sont plus frisées que bouclées.
Ouais, ah, ok. Ah, j'aurais dû mettre frisé, mince, ok. La diète cétogène.
Sur-côté.
Le jeûne intermittent.
Sous-côté.
Les séances full body.
Sous-côté.
Le pull-over pour recruter les pectoraux.
Sur-côté, évidemment. Rudy Koya ramasse, en fait.
Ah oui, j'avoue. Et tu vois que ça fait longtemps que je suis, quoi.
Ah ouais, carrément.
Les fentes bulgares sur un step.
Sous-côté.
Les tempos d'exécution.
Sous-côté.
Et le cinéma.
Sous-côté.
Ah oui, bah oui, sous-côté.
Non, mais je pense que c'est côté correctement.
Ah, tu trouves? Parce que moi, dans ma génération, je trouve qu'on y va beaucoup moins.
Ah ouais?
Je trouve qu'on le sous-cote, le cinéma.
Dans ta génération?
Ouais.
Bah, quand. Alors, je suis beaucoup le cinéma. Et surtout les box-office. Enfin, le box-office, parce que je suis hyper intéressé. On a le temps encore de discuter de ça?
Ah, bien sûr, c'est pas la fin. Hein.
Ok, ouais, très bien. Je suis aussi intéressé par l'aspect business du cinéma. Donc, je suis absolument tous les chiffres de tous les films, toutes les semaines, tout le temps. Donc, je sais un peu comment tel film a performé, pour quel budget, etc. Et on voit quand même des films qui arrivent à hyper bien performer encore aujourd'hui. Donc, je ne pense pas que le cinéma soit sous-coté ou sur-coté. À mon avis, il est coté correctement. Par contre, je ne sais pas comment ça sera dans 5 ou 10 ans.
Je trouve que les séries actuellement sont sur-cotées et le cinéma sous-coté. Et moi-même, je trouve que j'ai plus de mal à aller dans un cinéma qu'à regarder... Bon, je ne regarde pas de séries, mais je sais que je peux avoir plus facilement tendance à regarder des vidéos YouTube ou même des podcasts maintenant. Parce que parfois, il y a des podcasts qui durent une heure et demie ou plus.
Ouais.
Et quand tu te dis qu'avec un film, tu peux vivre une histoire et qu'il y a, tu peux vivre des choses dans un cinéma qui sont complètement différentes, je me dis que j'ai beaucoup plus de facilité à regarder un podcast qu'un film maintenant. Quoi.
Alors j'avoue que tout le monde a une sensibilité différente, mais si jamais vous pensez qu'un film peut vous plaire, allez le voir. Parce que aller voir un film au cinéma, c'est quand même la garantie que des films continuent à être faits pour le cinéma. Sinon, on va se retrouver qu'avec Les Anneaux du Pouvoir sur Amazon Prime, qui est une série qui coûte 1 milliard, mais bon, qui est nulle. J'ai vu...
surcoté.
Et qui est totalement surcoté. Je dis pas qu'elle est nulle parce que j'ai regardé que le premier épisode.
Ouais.
Parce que j'aime bien Le Seigneur des Anneaux et je me suis dit, on va tester. Mais en fait, non.
Ok.
Donc voilà, le cinéma coté correctement.
J'ai vu que t'avais hâte qu'il y ait Avatar 2.
Ah ouais.
C'est le genre de film là que t'attends vraiment où tu vas y aller seul.
Alors, tu vois, c'est une
bonne
question.
Ou peut-être des amis
C'est une bonne question. Parce que Avatar, pour moi, c'est un mix entre Avatar 2, c'est un mix entre un film que j'aurais envie de regarder tout seul. Mais c'est quand même assez un divertissement. C'est pour ça que James Cameron, putain, cet enfoiré, il est quand même très fort. Il est quand même très fort pour faire un film qui va me passionner, mais à 200%. Mais j'aurais quand même envie de partager l'expérience avec d'autres personnes, parce que je sais que même des gens qui savent pas forcément que James Cameron a réalisé Avatar 2, vont quand même arriver devant le film et vont se prendre une putain de claque. Et ils vont être comme ça devant l'écran, et j'ai envie de voir ça. Parce que ça va être quand même plutôt cool.
Ouais, là c'est comme avoir un match tellement important que t'aimerais bien le voir de ton côté, mais tu sais que si d'autres personnes voient ce match, ils peuvent tomber dans ce monde, dans le sport dans lequel tu es par exemple.
Et le premier Avatar, j'ai vu 4 fois au cinéma.
C'était 2007-2009 le premier Avatar
ça fait
longtemps maintenant.
Ou 2009, ouais, c'était il y a un petit moment. Je l'ai vu 3 fois au cinéma et je suis allé le revoir au cinéma il y a quelques semaines parce qu'il est ressorti.
Ah oui, et où il a fait des gros chiffres. Parce que les gens pensaient que c'était le 2 qui était déjà en train de sortir.
Ah ouais?
Ouais.
Il y a
des gens qui pensaient que c'était le 2.
De nul. Mais du coup, il a encore augmenté ses recettes mondiales. Et du coup, à la fin de ce film, je parle cinéma, désolé, mais c'est un truc qui me passionne. À la fin, il y avait un extrait de 2 minutes d'Avatar 2. Mais quel délire! Mais vraiment, mais incroyable. Ah. Incroyable.
C'est ce qu'on a vu dans la bande-annonce avec les... Où on voit les personnages avec la musique
est-ce que
incroyable.
T'as vu la bande-annonce sur YouTube ou au cinéma en 3D?
Ah bah non, je l'ai vu sur YouTube.
Et voilà. Et la bande-annonce, enfin les 2 minutes, j'ai vu la bande-annonce aussi sur YouTube qui est magnifique, mais bon, voilà quoi, c'est une bande-annonce sur YouTube une qualité qui est un peu dégradée forcément. Cinéma dans une salle Dolby, tu vois, avec les gros fauteuils en 3D avec un écran LED, mais c'était, je te jure, la chose la plus belle que j'ai vue sur un écran de cinéma. J'étais comme ça pendant 2 minutes, je me suis dit. Oh là, mais qu'il est fort ce con.
Est-ce que tu viens d'avance au cinéma pour être bien au milieu?
Alors maintenant, avec les salles Dolby, tu réserves ta place.
Ah, ok.
Donc tu peux, genre, 3 semaines à l'avance, réserver ton fauteuil, ce que je vais faire évidemment.
Ce que tu vas faire.
Je me tâte même à réserver 4 fauteuils. Comme ça, je suis comme ça devant Avatar 2, tu vois, calé avec ma canette de Monster, mes M&M's ici, les meilleures conditions possibles. Mais je vais être réellement comme ça, hein, c'est sûr.
Ok.
Et donc j'irai évidemment à la première séance. Du premier jour de sortie, et puis je pense que j'irai le revoir plusieurs autres fois.
C'est quand? C'est fin 2022?
C'est le 16 décembre.
Ok. Un petit peu comme Spider-Man l'an dernier?
Ouais.
T'es allé voir Spider-Man?
Oui.
C'est la dernière fois que je suis allé au cinéma pour Spider-Man.
C'était de la merde, mais je suis allé le jour de
donc
la sortie.
Donc surcoté, Spider-Man.
Surcoté totalement.
Ah, ça fait mal, mais je comprends ce que tu veux dire. Celui-ci, ok. Et oui. Tu vois, c'est le seul qui m'a fait aller au cinéma.
Ah ouais.
Il fallait ça pour que j'aille au cinéma.
Eh ben.
Ah, quand même, moi, c'était Tobey Maguire. C'est quand même un acteur qui a marqué mon enfance, quoi.
Ouais. Mec, t'as un peu une tête, t'aurais pu faire Spider-Man.
Oh, putain,
toi.
On me le dit tout.
Mais ouais.
On me le dit souvent.
Dommage que t'es blond, parce que théoriquement, il est pas blond, Spider-Man.
Tobey Maguire.
Peter Parker, il est pas blond.
Ouais, non, c'est Peter Surfer, quoi.
Mais oui, c'est vrai que t'as un peu le style de Peter Parker.
Mais c'est marrant parce que c'est vraiment un acteur qui a marqué, ouais, qui a marqué mon enfance, quoi.
Bah ouais, Spider-Man, entre 2000 et 2004, je crois. Ouais. Tu m'étonnes, c'était des blockbusters de fou qui ont super bien fonctionné. Donc de la même façon que moi, j'ai été marqué par Terminator 2, Retour vers le futur. C'est clair que toi, en étant plus jeune, t'as une trilogie comme ça qui sort à ce moment-là, carrément.
Mais je me rappelle que moi, c'était vraiment les meilleurs moments, limite. Les moments où j'allais au cinéma avec mes parents.
Bah, faut retourner au cinéma, oui. Avec des gens que...
Oui, mais maintenant, c'est plus pareil.
Tu parles des films ?
Ouais. Moi, quand il y avait un Spider-Man qui sortait, c'était incroyable. Et il y avait Spider-Man, il y avait Pirates des Caraïbes, et on parlait tous de la même chose, du coup, dans mon collège. Et c'est vrai qu'après, une fois qu'il y a eu YouTube, on parlait plus des YouTubers, par exemple.
Ouais.
Et là, on parle plus des gens de série, des acteurs de série. Et c'est plus pareil, mais c'est vrai que quand je suis allé retourner au cinéma avec mes parents, ça m'a rappelé quand même ces moments. C'était trop bien, quoi, quand j'étais petit.
Trop bien.
Que toi, ça t'a marqué toute ta vie, carrément, mais les acteurs que t'as vus.
Je me rappelle de Jurassic Park. Ouh. Je crois en 1993, j'avais 6 ans à peine. Je me rappelle quand je suis allé voir Jurassic Park au cinéma avec toute ma famille, donc mon grand frère, ma petite sœur, mon père et ma mère. Et qu'à l'époque, McDonald's, enfin je crois qu'ils le font tout le temps, McDonald's, des menus spéciaux pour les films qui sortent. Donc on avait notre gros gobelet avec un T-Rex sur le côté, on collectionnait ça. C'était un kiff de fou.
Ouais.
Et peut-être qu'effectivement, ça a perdu cette saveur, le cinéma aujourd'hui, peut-être.
Oui, parce que pour qu'il y ait de la saveur, je pense qu'il faut que tout le monde en parle en même temps.
J'espère que ce sera le cas d'Avatar 2. Non pas que je suis pro James Cameron, donc j'aimerais beaucoup que ce film fasse un carton de fou. Et je pense qu'il est bien parti pour... Et pour moi, c'est le film par excellence qui peut réunir tout le monde. Parce que c'est pas un Marvel, Spider-Man. Les gens qui connaissent pas ni Tobey Maguire, ni Andrew Garfield, ni Tom Holland, ils s'en foutent de les voir les trois en même temps.
Qui ne connaît pas Spider-Man? Qui?
Mais non, mais qui connaissent pas les acteurs.
Oui.
Je veux dire, les trois en même temps dans un film, la plupart des gens, ils s'en foutent.
Ah ouais.
Ils s'en foutent de trouver le Spider-Man des années 2000, des années 2010 et 2020 dans un film ensemble. On s'en fout complètement. Alors que là, t'as Avatar, où c'est l'histoire d'une famille, tu vois. Qui est obligé de se déplacer de son cocon familial parce qu'ils sont attaqués par les humains. Je pense que ça parle à plus de gens. Et en plus, l'aspect immersion, qui est absolument, mais quand je te dis c'est dingue, c'est absolument dingue, à mon avis, il y a moyen qu'on retrouve un peu cette saveur-là d'événements cinématographiques avec ça.
Ok. En tout cas, j'irai le voir celui-ci. Il va me faire me déplacer.
Parfait.
Mais c'est vrai que l'expérience audio change tout. Et je me rappelle avoir vu des films au cinéma qu'ensuite j'ai revu sur l'ordinateur. Et je me souviens qu'il y a des musiques qui m'avaient beaucoup parlé à des moments du film. Et elles me prenaient plus du tout lorsque je les regardais sur l'ordinateur, quoi.
Donc tu me feras plaisir d'aller voir Avatar 2 en 3D.
Okay.
Sur un bel écran, tu vois. Pas un écran pourri et pas en 2D. Donc même si ça va enrichir James Cameron, c'est le jeu, je pense qu'il le mérite. Donc va le voir dans de bonnes conditions. Parce
ok. Est-ce que chez toi, t'as un home cinéma ?
Même pas.
Tu veux vraiment l'expérience quand tu veux au cinéma, mais tu veux pas recréer ça chez toi?
Absolument non, parce que c'est une saveur différente. Tu vois, le cinéma, c'est quand même un événement. Tu te libères du temps dans ton emploi du temps, tu fais le déplacement dans une salle, tu y vas quelques minutes en avance, tu vois, c'est un peu particulier. Donc j'ai envie de garder un peu ça. Je regarde des films chez moi, hein, mais j'attends pas qu'il y ait la même qualité ou j'ai pas envie de reproduire les mêmes conditions.
Ok. Et quand tu vas au cinéma, c'est plutôt popcorn salé ou sucré?
J'ai jamais mangé de popcorn au cinéma.
Oh.
J'ai dit ça à une fille l'autre fois qui m'a dit « Oh, bah, je suis allé au ciné voir le dernier film avec Brad Pitt, j'ai pris des popcorns. » Je dis, mais j'ai jamais pris de popcorn au ciné.
Plutôt M&M's alors. Ok.
Tu commences à me connaître.
Maintenant, bah tu l'as dit juste avant.
Un popcorn.
T'as dit Monster M&M's.
Mais oui.
4 places, jambes étalées.
C'est pas assez fat les popcorns. Moi, il faut de la cacahuète et du chocolat, tu vois. Un maïs soufflé. Bah, c'est diète, ça limite.
En tout cas, trop cool de t'entendre parler de ta passion du cinéma. Et ouais, bah, j'ai hâte, maintenant tu m'as hypé pour Avatar 2, mais je me rappelle que le 1 m'avait déjà pas mal impacté. Je m'étais demandé ce que j'aurais fait à la place du ouais. héros. Est-ce que je serais resté chez les humains? Est-ce que je serais resté dans la nouvelle famille? Donc, hâte de voir ça. Il y a une question que je pose à la fin du podcast à chaque fois aux invités, c'est quelle est la dernière chose que tu as faite qui t'a fait peur?
Laisse-moi 10 secondes.
Oh oui, tu veux. Neoxy, il a pris 5 minutes, hein, donc t'inquiète, j'ai eu le temps de préparer des trucs à côté. T'inquiète.
Alors... Je pense que... Alors, je vais vraiment... Je sais pas comment les gens vont... Enfin, on s'en fout de ce que les gens pensent. Hein. Mais la dernière chose qui m'a fait peur, c'était quand j'étais en Norvège tout seul.
Ok.
J'ai fait une randonnée qui m'a vraiment fait peur, alors que c'était un niveau de merde.
Mais c'est pas à cause de la météo, c'est juste la difficulté de la randonnée.
De l'altitude, en fait. Alors que s'il n'y avait pas d'altitude, tu vois, c'était à 500 mètres.
Okay.
Donc vraiment, je pense que les gens vont se moquer. Mais la montée s'est bien passée et là, j'entends quelqu'un se moquer là à côté, qui est habitué à faire des randonnées.
Ici,
tu vois.
Ici aussi, ça se moque.
Je t'emmerde, tout simplement. Donc, non, mais attends, j'avais peur. Je suis monté et à la redescente, je voyais le vide. C'est un petit vide, hein, mais c'était un vide quand même. Et j'étais presque tétanisé. C'est-à-dire que j'ai mis peut-être 3 minutes à faire 4 pas. Parce que bah, y avait de la boue partout, tu vois, le chemin n'était pas si large que ça. Et la seule chose qui m'a donné du courage, c'est que j'ai vu deux autres randonneurs limite le faire en footing. Je me suis dit, bah, attends, vas-y, reprends-toi, ça va pas du tout. Mais ça m'a vraiment fait peur.
La descente de la randonnée, alors.
La descente de la randonnée, ouais.
Ok.
Je me suis dit, putain, je suis peut-être pas fait pour ça, en fait.
Puis c'est le fait que t'étais seul, que t'avais pas de réseau
Ah, j'étais seul, mais vraiment seul, de chez seul. Il y avait du vent, il y avait de la pluie. C'était pas physiquement difficile. Mais tu rigoles encore.
J'ai la scène en tête où je te vois. Les randonneurs, ils voient un gars d'un mètre 80 qui galère à redescendre et eux, ils...
Oh, ça va, c'était pas non plus une colline pourrave, il y avait quand même du vide.
Oui, oui, c'est ça. Mais comme il n'y a pas le contexte et que tu l'as présenté en disant c'est 500 mètres d'altitude, on imagine un petit truc, mais j'imagine que c'était
tu
plus
ça. Tu regarderas sur Insta, sur ma page photo.
Okay.
Je te la donnerai après. J'ai fait un plan au drone, tu vois, un peu en mode
bon.
Satellite.
S'il y a du contexte, c'est bon.
Et tu vois un peu c'est quoi l'environnement.
Okay.
Donc c'est pas un petit plateau pourri. Non, c'est quand même, ça montait un petit peu. Okay. Pas beaucoup, mais ça montait un petit peu. Et du coup, la redescente, elle m'a fait bien flipper.
Okay.
Et sinon, l'autre truc, parce que ça, je sais pas si on peut considérer que c'est la dernière fois où j'ai eu peur, c'est quand j'ai essayé l'apnée.
Pour la vidéo.
Pour la vidéo, ça faisait peur. Ça faisait vraiment peur.
Okay.
Au début, ça faisait peur. Après, j'étais un petit peu plus relax parce que j'étais bien entouré. Mais c'était quand même, avant de faire la première plongée sur le bateau, j'étais pas bien.
Ouais.
On voyait le stress sur ma tronche.
Ouais. Et quand tu commences à sentir les contractions du diaphragme,
ouais.
ça fait
vraiment peur.
Ouais.
Donc j'ai bien dit à Stéphane qui m'accompagnait qui est le vice-champion du monde, qui m'accompagnait sur ça. Je lui ai dit, mais j'ai peur de me noyer, quoi. Tu me dis de retenir ma respiration, mais tu sais, je suis pris de panique et j'ai envie de remonter directement. Donc c'était un peu... Là, c'était vraiment repousser ma zone de confort.
Ok. Bon, on voit en même temps que tu as quand même fait une année 2022 assez riche, assez remplie d'événements.
Donc, elle n'est pas finie.
Elle n'est pas finie. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la fin de l'année?
Oh, je sais pas.
Il reste 2 mois. Hein.
Ouais, c'est vrai que ça va passer vite.
Tu vas nous faire une petite FAQ en fin d'année avec le sapin Noël dans la salle?
Parce qu'il y avait le sapin là-dedans.
Ouais, j'aimais bien, c'était une petite ambiance sympa.
Ouais, trop bien. J'y réfléchirai.
Petit pull de Noël, enfin, petit pull blanc en laine. Petit sapin de Noël, petite FAQ.
Faut que je me trouve un pull de Noël, tu vois, bien cliché.
Ouais.
C'est plus moi qui décide les sujets, c'est la chaîne de prod maintenant.
Ah, ok.
Non, je plaisante. Mais si je lui dis, si je lui dis je veux faire un FAQ, elle va me dire, c'est pas une bonne idée, ça va pas faire de vue. Donc,
Ah ouais, ok.
Ouais.
Tu peux plus faire ce que tu veux, c'est par rapport. Faut que chaque vidéo, elle ait vraiment un impact.
Bah, ça fait partie du jeu.
Ouais.
C'est que maintenant j'ai une enfin maintenant je l'ai toujours eu hein, mais il y a des gens qui dépendent de ma chaîne YouTube. Donc c'est à dire que si la chaîne ne marche pas, bah je peux plus payer certaines personnes qui bossent avec moi. Donc il y a une responsabilité vis-à-vis de ça. Et moi j'ai toujours été totalement à l'aise avec le fait de réfléchir au sujet de vidéo pour que ça marche le mieux possible et pas faire les choses à l'instinct de la même façon que je m'entraîne pas à l'instinct, enfin un peu plus maintenant, mais parce que j'ai beaucoup d'expérience.
Ouais, c'est un instinct qui en sait plus que...
Ouais, c'est un instinct plutôt bien
retraité. Un gros instinct, quoi.
Absolument.
C'est un instinct bien méthodique.
Exactement. Mais je suis partisan d'appliquer les mêmes choses sur tous les autres aspects de ma vie, donc je suis très OK avec ça.
Okay.
Je ne le disais pas d'une manière... c'est chiant, on va me dire qu'il ne faut pas faire de FAQ.
Ouais.
Au contraire, je trouve que c'est cool d'avoir un regard extérieur qui me dit peut-être que la FAQ, c'est pas adapté à ta chaîne YouTube maintenant.
Ok. Et t'aimerais bien toucher plus de YouTubeurs mainstream, des YouTubeurs peut-être dans le divertissement aussi et... faire des apparitions dans des vidéos comme ça?
À voir. Moi, je suis pas contre. Enfin, je suis même pour, en fait. Je suis même 100% pour. Je serais content de pouvoir rencontrer plus de personnes, ne serait-ce que pour les rencontrer. Au-delà de l'aspect vidéo et collaboration, où des fois, tu vois, je vais juste filmer une vidéo et c'est terminé, tu les revois plus. Pouvoir rencontrer des gens, c'est cool. Et j'ai encore tellement à apprendre dans le YouTube game que de pouvoir collaborer avec des YouTubeurs qui ont une plus grosse communauté, leur poser des questions, peut-être appliquer ce qu'ils ont appliqué sur ma chaîne YouTube. C'est trop bien. De la même façon que quand j'ai commencé la muscu, bah, j'aimais bien avoir des conseils de gens qui étaient plus expérimentés. Et puis là, encore une fois, pour la course à pied, je trouve ça trop, trop cool de pouvoir se faire un peu chapeauter par des gars plus expérimentés. Donc ouais, j'aimerais bien.
Okay.
Je ne sais pas si ça se fera parce que tu vois, j'ai une chaîne de muscu qui est quand même un peu particulière, très sérieuse. Les youtubeurs mainstream, tu vois, c'est pas demain que je vais me retrouver sur le GP Explorer saison 2.
Ah oui, mais je pensais plutôt en termes de la personne qui va les aider à se transformer, par exemple.
Ah.
Parce que t'as vu le nombre de transformations physiques qu'il y a sur YouTube depuis.
Ouais, on m'a jamais sollicité.
Ouais, ça c'est nul ça.
Ça c'est nul.
Après, ils avaient souvent des coachs, c'est vrai.
Astu, Inox Tag, les gars.
Vous avez loupé le meilleur, quoi. Le meilleur coach sportif de France, quoi.
Après, ils ont fait une transformation incroyable. Donc, ça a bien marché pour eux.
Mais t'as vu, je suis sûr que ça va continuer. Ils sont tous en train de se transformer physiquement, quoi.
Bah, tant mieux. Et moi, si je peux aider, je le ferai avec grand plaisir. Hein. Mais j'avoue que ça serait vraiment cool. D'avoir un projet avec un YouTuber qui a envie de métamorphoser son physique, moi, je serais 100% partant. Bah, c'est mon métier, donc comment ne pas être partant sur ce genre de truc.
En tout cas, Mastu Inox sont passés à côté du meilleur coach de France.
Inox est abonné à mon TikTok.
C'est vrai ?
Peut-être qu'il s'est dit, je vais.
Mais tu vois, c'est comme ça que tu vas pouvoir.
Je vais peut-être choper des petits conseils de muscu.
Ah, de fou ? Ok, je savais pas ça.
Ça serait tellement cool. Je regarde en plus ces vidéos. En fait, je regarde beaucoup de vidéos YouTube qui sont pas de muscu. Hein. Et je trouve que les chaînes YouTube françaises dans le divertissement, elles sont hyper fortes. Donc les Inox Tag, les Amixem, les Pierre Cross, même McFly et Carlito, je regarde beaucoup. Et Squeezie aussi. Je regarde beaucoup, je trouve ça génial. Donc,
ouais. Et on se rend pas compte de la production qu'il y a derrière aussi, souvent.
Ah ouais.
Même dans le streaming, on est très fort en France.
Bien sûr.
Bon, ouais. On l'a vu avec le GP Explorer, mais.
Absolument. Donc ça c'est cool, c'est encourageant. Et si moi je peux aider qui que ce soit à se transformer, ce serait avec plaisir.
Ok. Bah sache en tout cas que je vais te montrer tout à l'heure. J'ai une vidéo sur ma transformation physique qui va arriver sur YouTube.
Ouais.
Donc on a préparé la miniature et donc les photos avant après. Je pourrais te montrer ça, mais sache que tu es parti en grande partie responsable de la transformation physique.
Je veux être crédité.
Ouais.
Genre la première image de la vidéo YouTube, c'est merci Nassus.
Je le mettrai en description de vidéo. Non mais c'est vrai que tu seras sûrement mentionné dans la vidéo. Et voilà, tu peux en prendre une petite partie de responsabilité parce que
Ça fait plaisir.
Parce que c'est aussi grâce à ta vidéo et grâce à tout ce que j'ai appris sur l'hypertrophie, quoi.
Bah, merci à toi d'avoir appliqué les conseils. C'est ça le plus important.
C'était assez facile. Hein, j'avais beaucoup souffert avant, comme je t'avais dit tout à l'heure. J'étais pas là pour. Enfin, je veux dire, s'il faut faire les tempos d'exécution, je ferai les tempos d'exécution. Sinon, c'est moi qui allais m'exécuter, quoi. si je faisais pas celle de muscu à ce moment-là.
C'est pas mal.
Ok, bah en tout cas, Nassim, merci beaucoup pour cette discussion.
Ça y est, c'est fini ?
Bah, c'est passé hyper vite. Regarde, ça fait 1h16.
Ouais, on peut rester encore un peu, si tu veux. Hein. Non, je plaisante. Ça, c'est comme tu veux. Hein.
Alors, sur côté, j'ai posé la question sur Rudy Koya déjà, donc ça c'est bon.
Pourquoi tu veux m'inventer des clashs comme ça ?
Je sais pas.
Laisse-moi tranquille.
Je sais pas, ça me faisait rire de me dire qu'avant je regardais ça en tant que spectateur et maintenant je peux poser une petite question comme ça.
Mais en plus, évidemment que je vais dire surcoté, même s'il est sous-coté, c'est juste pour le faire chier. Voilà.
Oui.
Juste pour le faire chier, je dirais qu'il est surcoté.
Oui, c'est clair. Non, mais. C'est comme quand j'ai posé à Neoxy les questions sur la Redbox.
Ouais.
Alors que ça fait 2 ans que c'est fini, ils en peuvent plus qu'on pose des questions.
Bah ouais, tu m'étonnes.
Et moi j'arrive, Neoxy,
parle-moi
de la Redbox. Non, je te jure.
Ça fait partie du jeu.
Oui, c'est vrai. Et puis il s'était jamais exprimé dessus, donc. Non, mais moi j'ai posé toutes mes questions.
Eh bah génial, on va aller s'entraîner maintenant.
Trop bien, j'ai trop hâte. Donc là c'est cool, on est en mode canapé en cuir, discussion civilisée. Et là on va aller à la salle s'entraîner.
Et là je vais t'analyser.
Ouais.
Là, je vais t'analyser, là ça va être différent.
Ah, j'avoue, je sais pas quoi m'attendre, mais en tout cas, ça fait 5 ans que je me prépare pour ça, donc tu vas voir, j'ai un bon cardio, je me suis bien préparé. Donc
je vérifierai ça quand même.
Hâte de filmer cette séance, ça va être un accomplissement pour moi aussi. Et ben merci pour la discussion, Nassim.
Un plaisir.
Et trop bien, on se retrouve jeudi prochain dans la prochaine vidéo. Nassim, très bonne fin d'année à toi.
Merci.
Je vais écouter tous les prochains podcasts de Là on discute avec grand plaisir. Et
lien du podcast que tu mettras évidemment en description.
Bien sûr. Tous les dimanches, tu vas essayer de.
Ah non, je peux pas m'engager sur ce planning de publication. S'il vous plaît, ne m'en voulez pas.
Mais c'est souvent le dimanche.
C'est souvent le dimanche. Tous les dimanches, ça reste.
Ouais. C'est hyper compliqué. On se rend pas compte, c'est hyper compliqué.
Surtout que là, je publie 2 vidéos sur ma chaîne principale par semaine.
C'est pareil. Moi, j'essaie tous les jeudis, mais c'est très très compliqué. Donc.
Donc abonnez-vous quand même. Mais
abonnez-vous. Là, on discute. Il y a déjà de bons épisodes qui sont sortis. Et puis là, où t'as filmé une série de podcasts, donc ça va arriver aussi prochainement. Donc n'hésitez pas à aller écouter ça aussi. Et puis Nassim, très bonne journée à toi.
Merci encore.
Et puis merci de nous avoir écoutés. On se retrouve jeudi prochain dans le prochain épisode. Salut.
Ciao les amis.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.